Radio Apple Pie, en effet. 21h, toujours en direct du bar de l'Apple Pie. Avec ce soir Pascal et Sandrine du CEM, le Centre d'Expression Musicale du Havre, pour m'aider à les cuisiner, Pascal, votre chroniqueur noir, et la roqueuse endiablée, Jerry. Avant d'attaquer avec nos invités, quelques impressions sur des spectacles qu'on a vus le week-end dernier. Théâtre, tu as bien fait de venir Paul, de la compagnie Joël Pagé, excellente pièce de Louis Calaferte. Dialogue père-fils, très bien servi, comme on dit, par les deux comédiens. C'était à Mamie Blue, je pense que ça se jouera prochainement au Havre. Essayez de ne pas rater ça. Le week-end dernier, on a vu aussi un de nos fidèles auditeurs de Radio Apple Pie, Christian M, qui se produisait avec sa guitare, ses chansons et quelques reprises à l'Hermès. On en profite pour saluer Christian, qui est là ce soir encore, et puis Saïd. Et puis du rock, on est allé voir Ediane de Hot Rods à la salle de la Traverse à Cléon. Barry Master, égal à lui-même, le seul rescapé des Hot Rods de la grande époque, entouré de trois petits jeunes qui assuraient bien. Il a toujours une voix magnifique, il nous a offert plein de standards du groupe. Les puristes ont été déçus, on a entendu plein de « Ah, c'est plus Franklin en 75 !» Bon, moi, j'ai pas été trop déçu. En attendant de passer à nos invités, pour les nostalgiques, on écoute « Do anything you want ».
Do anything you wanna do.
Et Hot Rod, donc Do Anything You Wanna Do. On va essayer de reprendre sans faire le marathon. Avec nos invités de ce soir, Sandrine et Pascal du SEM. Pascal, si ça t'ennuie pas, pour plus de commodité, on t'appellera Paca.
Avec un plaisir non dissimulé.
Du nom d'un célèbre empereur maya dont je ne connais pas.
Je connais Maya l'abeille, il y a plein de
ça. Toutes les soirs, mais bon.
Je préfère ça à la région française du même nom.
Voilà. Et peut-être que Pascal va bien vouloir jouer le candidat pour.
Bah, j'ai pas le choix, de toute façon, c'est le Gimnadi.
Poser quelques petites questions.
Bah oui, parce que moi, le SEM, en fait, bon, je connaissais effectivement le nom, mais je connais pas vraiment le fonctionnement, entre autres. Puis déjà, bon, savoir quand ça a été créé. Par qui, pourquoi, éventuellement.
Un peu d'histoire.
Un peu d'histoire, oui, parce que moi je connaissais la chanson de Johnny Hallyday, la fameuse chanson,
ouais.
Que je sème. Mais il fallait la faire celle-là quand même.
Mais ouais, excellent,
on devait savoir quand même l'origine de cette chanson.
Alors, l'origine, non pas de la chanson, mais du sème, c'est 1986. C'est une assez jolie histoire, il faut en convenir. Il y a deux mômes qui se sont retrouvés dans le bureau d'un juge. Pour le motif suivant, ils avaient fait beaucoup trop de bruit avec leur groupe de rock'n'roll, et ce depuis quelques temps, et avec répétition, avec plainte des voisins, avec tout ce qui s'ensuit. Et finalement, ils sont atterrés dans le bureau de ce juge-là qui a dit « bon, il y a plus grave, c'est vrai comme délit, mais enfin quand même, il y a un genre de problème ». Et à la droite de ce juge, il y avait monsieur Georges Durand, président de l'association du SEM, qui ne l'était pas encore à l'époque, qui a dit, écoutez, c'est bien gentil votre histoire, mais ces jeunes-là, qu'est-ce qu'on leur propose, quoi? Ils se retrouvent chez vous, devant la justice, ils ont à répondre d'un délit, mais qu'on n'est pas vraiment un non plus. C'était une expression artistique et tout le bazar. Donc le juge a dit, écoutez, monsieur Durand, bon, moi je les relaxe. Si vous avez envie de faire quelque chose, c'est votre problème. Mais moi, personnellement, je suis juge, je n'ai pas vocation artistique. Voilà, donc monsieur Durand, qui justement avait ses bureaux juste en face, enfin rue Franklin, s'est dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc il a, sur ses propres fonds, loué le grand local qu'on occupe toujours pour première vocation des locaux de répétition.
Quel endroit, là, parce que
10 rue Franklin, au Havre, en centre-ville, quoi.
D'accord, voilà.
Où on est toujours. Et en fait, les locaux de répétition étaient accompagnés d'autres activités. Il a créé une association qui s'appelle toujours l'AISC. Le SEM, c'est le nom de notre activité, mais l'association s'appelle l'AISC, association havraise d'initiatives socio-culturelles, sociales et culturelles, pardon. Et voilà, donc c'est parti. C'est un particulier, en l'occurrence Georges Durand, qui a pris la décision de fonder, non pas encore cette école, c'était pas encore une école, mais des locaux de répète, et avec des activités annexes tout à fait variées, des cours d'anglais, un tas de choses, finalement. Mais il se trouve que l'activité locaux de répète a pris une ampleur inattendue, et qu'au bout d'un moment, l'essentiel de l'activité dans ces locaux-là, c'est devenu les répétitions des groupes de rock'n'roll à vrai. Et M. Durand, toujours, s'est dit, bah, c'est bien gentil, il répète et tout, mais ça serait peut-être bien qu'il soit encadré par des musiciens un peu plus âgés, un peu plus professionnels, qui pourraient éventuellement leur donner des cours. Son fils, un certain Olivier Durand, qui...
On connaît, oui, il me semble que je connais.
Dont le nom évoque certainement quelque chose à tous les gens qui écoutent, a commencé à donner des cours de... Il était déjà à l'époque sérieusement musicien. Donc en fait, il y a eu un encadrement de ces groupes-là, et puis le début de cours, et puis quelque chose qui a commencé à ressembler à une école de musique. Voilà, cette école s'est développée avec des directeurs, des profs successifs pour en arriver au SEM d'aujourd'hui. Voilà.
Pas mal comme historique. Sans être trop pointilleux, quand tu dis qu'au départ, Georges Durand, il avait des locaux, pourquoi
C'est-à-dire qu'il n'avait pas de locaux, il a décidé de louer des locaux. Ouais. Pour résoudre le problème de ces jeunes qui répétaient dans des caves ou des garages, on a tous fait ça à un moment ou à un autre, avec les problèmes que ça engendre au niveau du voisinage.
Au départ, s'il a fait ça de sa première initiative, il n'a pas eu du tout aide de la mairie.
Absolument pas. Absolument pas. C'est-à-dire que c'est une initiative.
C'est plus loin que ça, puisqu'au départ, il travaillait au CMBD, au centre de tutelle, qui est juste en face du CEM.
Ah voilà, c'est ça.
Et dans ces locaux-là, d'abord, il a fait répéter des premiers groupes, mais bon, les gens qui travaillaient au CMBD ont vite pété les plombs, et donc il a fallu qu'ils trouvent d'autres locaux pour faire répéter les groupes. Et donc là, il a loué ce local qui était juste en face, au Rue Franklin.
Et comment ça s'est créé une équipe autour de lui progressivement, je suppose, pour justement, d'une part, la structure de louer les locaux, voir avec les groupes, etc., puis progressivement trouver des profs.
En fait, c'est le réseau Avray qui a fonctionné. Olivier jouant dans des groupes, connaissant tel batteur, tel chanteur, tel instrumentiste. Ça a commencé par une équipe de musiciens Avray, quoi. Pour la plupart, j'imagine qu'ils n'avaient jamais donné de cours de leur vie, mais dont le projet... ils étaient intéressés par ce projet-là, quoi. Et après, il y a eu un début de structuration qui dit école, qui dit prof, qui dit élève, dit directeur, dit structuration, en fait, en règle générale, quoi. Donc, il y a eu des expériences plus ou moins heureuses dans l'histoire du SEM. Des gens qui n'avaient pas tellement grand-chose à voir avec ce genre d'expérience associative en direction des musiciens de rock à vrai, quoi. Et puis, petit à petit, des problèmes financiers tout à fait invraisemblables. Et qui ont été résolus au fil du temps, en grande partie, je dirais, par ma collègue et amie Sandrine Mandeville, ici présent. Sandrine Durand, maintenant, tout ça sort. On en finit. C'est une affaire familiale, finalement.
La saga de Durand.
Et voilà, quoi. Personnellement, j'ai découvert le SEM en 1991. Enfin, je connaissais l'existence, bien évidemment. Et un jour, j'ai croisé Olivier dans la rue et il m'a demandé si je pouvais le remplacer sur quelques cours. Voilà, c'était il y a 11 ans. Et maintenant, je passe l'essentiel de mon temps et de mon activité professionnelle dans cette école.
Alors, si j'ai bien compris, c'était essentiellement au départ des gens issus du rock.
Oui.
Ils sont greffés vraiment dessus. Il n'y avait pas d'autres gens issus de
musicaux différents. Ça s'est élargi parce que, en fait, l'enseignement du rock, même encore à l'heure actuelle, maintenant on dit l'enseignement des musiques actuelles, c'est toujours une problématique assez importante. C'est-à-dire que personne détient encore vraiment de vérité assez précise à ce sujet-là. Mais alors, 15 ans en arrière, je te raconte pas, quoi. Donc, c'est des gens qui étaient professionnels de ces musiques-là qui ont essayé de transmettre ces transmissions de leur savoir. Et puis, autour de ça, il y a d'autres profs qui sont venus. Parce que si on veut apprendre le violon, on apprend le violon avec un prof qui sort du conservatoire. Donc, ça a donné une espèce de fusion et de mixité de genres, de styles, de gens, d'écoles totalement différentes, quoi. Qui sont encore d'actualité, finalement. On est encore au SEM. Effectivement, une des spécialités, c'est les musiques rock, parce que Le Havre est une ville rock. Mais il y a aussi des profs qui sont complètement issus du milieu classique. Il y en a quelques-uns qui viennent du jazz, quoi.
On va revenir un petit peu sur les différents professeurs et les différents enseignements qu'il peut y avoir musicaux au SEM. Mais je reviens juste sur le truc il y a 15 ans, ça doit être carrément même une hérésie, enseigner le rock. Rappelez-vous.
Oui. Non, hérésie, je dirais pas ça.
Il y avait des gens qui cherchaient des pistes, qui cherchaient quand même à essayer d'aller plus vite parce que c'était des autodidactes et ils cherchaient à essayer d'aller plus vite. En fait, je crois que c'était ça. Et donc, et les seuls moyens pour les musiciens de rock pour essayer de mettre des noms sur les choses qu'ils faisaient naturellement et spontanément, c'était de se tourner vers les seuls enseignants qu'il y avait. Et c'était soit à l'époque les enseignants de jazz ou alors vers le classique. Mais bon, il y avait de toute façon des difficultés, des problèmes, puisqu'on transmet, on peut transmettre des grilles de guitare de façon par les cassettes, par voie orale, mais pas assez peu par l'écrit, par les partitions et tout ça. Donc toute la méthode, toute la pédagogie, elle est à inventer, elle est à concevoir. Et en fait, ça fait 15 ans maintenant que le SEM travaille sur cette notion-là de pédagogie, de transmission de la musique actuelle, ne pas tuer la créativité de ces musiques-là, ne pas les étouffer tout en essayant de les transmettre. Et le but du jeu, je crois vraiment, c'est d'essayer de faire avancer plus vite les gens et de les aider, tout en les aider à créer, quoi.
Est-ce qu'on peut dire quel genre de musiciens peut-être qui seront connus déjà de l'assistance dans le bar ou peut-être même nationalement ou internationalement sur Internet qui...
Il y a un groupe, en ce moment, là, il y a un très très jeune groupe qui s'appelle Angel Face, dont ils sont quatre musiciens. Sur les quatre, il y a trois élèves du SEM, dont on est assez fiers parce que c'est un super groupe. Ils jouent d'ailleurs samedi au Macbeth, au Havre. Donc il faut aller les voir. Le batteur a 14 ans quand même et les autres ont à peu près 17-18 ans. Bon, ben voilà, c'est la nouvelle génération de groupe et ça fait partie de ces jeunes qui sont passés par le SEM et je pense qu'ils tirent bénéfice, je pense, de l'enseignement qu'ils ont reçu.
On va en avoir un premier aperçu en écoutant un morceau que vous avez amené et qui s'appelle Shaking Street. Est-ce que tu peux nous dire
Alors oui, ce que je peux dire, c'est que c'est un morceau de MC5 qui s'appelle Shaking Street. Ça, c'est un morceau qui a été enregistré et joué par des musiciens qui ont participé à un stage au SEM qui s'appelle Artistes sur scène, qui sont des musiciens bénéficiaires du RMI. Et qui ont enregistré cette chanson-là dans le cadre du stage, dont il y a déjà eu deux éditions au Havre. C'est un stage qui s'adresse à des musiciens effectivement bénéficiaires du RMI, parce qu'on sait bien que ces professions-là sont tout à fait sujettes à bien des aléas, et qu'il y a des gens à un moment qui ont besoin de se repositionner, se dire c'est quoi mon boulot, est-ce que je maintiens mon activité dans la musique, est-ce que je suis un artiste, est-ce que il faut que j'aille voir ailleurs. Donc nous, on a conçu, on pourra en reparler un petit peu plus longuement après avoir écouté. Mais voilà, ça s'appelle Shaking Street, c'est des stagiaires qui ont passé 9 mois au SEM dans nos locaux. Et juste petite anecdote, le batteur, c'est l'animateur qui était avec eux, c'est Thomas Chettel, qui était le clavier des Roadrunners, voilà, qui pour l'occasion est devenu batteur avec les stagiaires.
On est content. Shaking Street, magnifiquement interprété par un groupe formé par des stagiaires qui ont travaillé au SEM pendant plusieurs mois, accompagné de Thomas, l'ancien clavier des Roadrunners, qui en l'occurrence s'est mis à la batterie. On est toujours donc avec Pascal et Sandrine du SEM. Et bah, vous avez bien compris, on est allé un peu vite, que c'est à la fois des locaux de répétition, on parlera un peu plus aussi des groupes qui répètent à l'intérieur du SEM, combien ils sont, etc. Une école de musique. Puisqu'on est sur les stagiaires, et donc tu as commencé à nous parler un petit peu de ce projet de réinsertion des RMistes dans la musique. Est-ce que vous pouvez développer l'un ou l'autre?
Juste pour refaire un petit point d'histoire. En fait, un jour, il y a deux assistants sociaux de Dieppe qui sont venus nous voir en nous disant, on reçoit beaucoup d'artistes musiciens qui sont en demande de boulot, appelons ça comme ça, et nous, on n'a pas de filière d'insertion à leur proposer, on ne connaît pas forcément bien ce milieu-là. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Donc, on s'est servi de ce qu'on connaît du métier et de tous les aléas, et on a créé un projet qui s'est appelé Artistes sur scène, où les gens doivent se positionner, c'est-à-dire que plutôt que se faire du mal peut-être avec un projet de musique qui ne pourra pas aboutir pour diverses raisons, choisir autre chose, ou alors conforter les gens qui ont vraiment le truc pour le faire, les encourager, les orienter vers des formations, des choses comme ça, quoi.
Mais voilà, parce que tu veux dire par là, si j'ai bien compris, parce que j'avais suivi un petit peu la première édition de ce stage, on le sait bien que percer tout de suite avec sa musique, même si on pense que c'est la meilleure du monde, on est tous bien placés ici ou à peu près pour savoir que c'est vachement difficile. Donc c'est les aider à trouver quelque chose qui n'est pas forcément des débouchés tout de suite pour leur groupe, mais éventuellement être par exemple professeur de musique ou trouver quelque chose d'autre, faire de la musique d'accompagnement de quelqu'un, enfin trouver différentes sortes de débouchés, c'est quoi
en tout cas, c'est trouver des pistes pour ne pas se retrouver dans une impasse. C'est tout. C'est-à-dire que ça soit des problèmes économiques ou des problèmes plus sentimentaux, parce que le rapport à la musique est quand même de cet ordre-là, ou de passionnel, je veux dire. Au moins, essayer d'établir un bilan avec eux et de voir ce qu'il est possible d'exploiter avec le potentiel des gens, avec leurs affinités, quoi.
Déjà, d'être à l'écoute des gens et de savoir un peu ce qu'ils veulent et puis éventuellement résoudre une partie du problème.
Exactement.
Déjà, d'être à l'écoute des gens, ce qui est peut-être important.
Ce qui fait concrètement, il y a des gens qui se dirigent, soit qui maintiennent leur carrière artistique, c'est-à-dire que là, dans ce cas-là, on essaie de les aider à rentrer dans les réseaux et tout ça, développer leur carrière, etc. Il y en a d'autres qui ont des besoins de formation, qui ont un bon potentiel, mais qui ont besoin d'être formés en musique et des choses comme ça. On a envoyé 4 stagiaires dans une école à Paris de formation professionnelle, tout ça. Et il y en a d'autres, tout simplement, avec qui le bilan, on fait en sorte que ça vienne des gens. Nous, on n'a pas la prétention de détenir le savoir absolu, mais au moins de les mettre en phase avec la réalité pour qu'ils puissent eux-mêmes prendre les décisions qui correspondent à leurs objectifs, quoi.
De leur expliquer qu'en fait, être musicien professionnel aujourd'hui, surtout quand on n'habite pas à Paris, ça s'accompagne souvent de métiers périphériques, donc professeur de musique, c'est technicien, c'est encadrant de répétition dans des lieux qui se développent maintenant, c'est de la régie plateau, enfin c'est de développer aussi parallèlement des métiers annexes à la musique, ou alors même des métiers complètement différents, tout en valorisant, continuant à valoriser la pratique musicale de chaque personne qui rentre dans ces stages-là.
À défaut de vivre de son art, avoir la capacité de vivre à côté en faisant quelque chose quand même de concret. Mais je voulais revenir justement sur le concret, parce qu'il y a eu pas mal d'intervenants, donc je cite quelques trucs, vous en direz plus. Il y a des gens qui sont venus expliquer qu'est-ce que c'était la SACEM, d'autres comment on faisait un contrat, différentes choses comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire de plus sur...
En règle générale, les confronter avec des professionnels de tout style, comme tu as dit, hein, ça peut être des techniciens, des gens de maison de disques, des formateurs d'école, toutes sortes de gens, des représentants des sociétés civiles, Spedidam, etc., pour que ces gens-là, à chacun à leur niveau, puissent donner leur point de vue. Je crois que c'est vachement important de pouvoir rencontrer des gens qui baignent complètement dans ce milieu-là, parce que s'ils sont honnêtes, on essaye de choisir des gens qui sont vraiment humainement intéressants, ce qui n'est pas toujours facile, mais qui puissent parler de leur profession avec honnêteté, en mettant des limites sur les choses possibles. C'est important, je crois que c'est le nerf de la guerre, quoi.
Musicalement, il y a des gens, il y avait Sergio Tessoguet, de guitariste de Noir Désir, qui était venu les voir, qui a travaillé avec eux sur la première édition pendant 2 jours, pour parler du parcours de Noir Désir, en fait, pour parler d'un parcours artistique. Cette année, c'était Alain Chenevière, des Pauvreaux, qui est venu aussi pour leur dire qu'une ascension pouvait exister, mais qu'une descente vertigineuse pouvait aussi exister. Et que même si au jour d'aujourd'hui, les stagiaires parvenaient à une carrière artistique importante. Ouais, il fallait aussi penser que ça pouvait descendre un jour. Et c'est toutes ces choses-là qu'on essaie de leur dire, toutes les réalités qu'on essaie de leur mettre en face face de leur projet pour voir si c'est réalisable, si c'est réaliste et ce à quoi ils doivent s'attendre.
Et sur la globalité des 2 éditions, il y a eu combien de personnes qui sont passées en tant que stagiaires ?
C'est 16 stagiaires par formation, en fait, une formation qui dure 9 mois.
D'accord.
Et pour le moment, il n'y a eu que 2 éditions. On a fait une première édition en 99. On a voulu prendre le temps de l'évaluation parce que pour nous, c'était quelque chose de nouveau. Au niveau musical, on avait des compétences. Sur l'accompagnement social, là, on en avait moins.
Ah, c'est compliqué.
Et,
quand même.
Et on travaille sur de la matière humaine. C'est des choses très, très importantes. Et on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Donc, c'est vrai qu'on avait voulu, nous, prendre le temps de l'évaluation pour, si on proposait une deuxième édition, pouvoir modifier les choses, ce qu'on a fait. On a proposé une édition plus longue sur la deuxième édition, sur l'année 2000-2001.
Ouais.
Ça s'est terminé au mois de juin. On suit toujours les stagiaires et on est en négociation là, avec le conseil général pour faire des éditions là, tous les ans, en fait, pouvoir renouveler ça tous les ans.
Ah oui,
c'est 16 stagiaires par session.
Et vous aviez fait des réalisations, alors c'est vrai que cette année je n'ai pas bien suivi, mais bon, vous me direz. Sur la première, il y a eu quand même pas mal de choses vachement intéressantes qui sont passées super sympas, puisqu'il y a eu des gens qui ont enregistré un disque avec des musiques assez variées. Il y a eu une fête de la musique avec un grand concert qui s'est passé
à Fécamp.
Il y a eu quelque chose à la Petite Rade aussi, ou je me trompe?
Oui.
Voilà. Il y a eu quelque chose de filmé par Samuel qui a été un de nos invités aussi de Radio Apple Pie.
Il y a eu un film sur la journée de la fête de la musique à Fécamp qui retraçait toutes les...
On a eu un peu de mal à montrer aux subventionneurs, mais pour nous c'était super.
C'était trop rousse pour eux.
On va dire filmé tout à fait librement par Samuel de l'Éléphant Rouge.
Qui était déchaîné ce jour-là.
Qui était franchement en forme.
Oui, nous on a trouvé ça très plaisant.
Nous aussi, on était en forme.
On est certain à l'avoir vu, parfois rien ne nous a choqué. Maintenant, c'est vrai que malheureusement, on ne fait pas partie des subventionneurs.
C'est dommage.
Sinon, comment on aura allongé la thune? Donc, est-ce que vous êtes resté un petit peu en contact avec des gens qui ont participé aux différents stages?
Alors, un petit peu. On a eu un super petit rayon de soleil il n'y a pas très longtemps. Et un mec qui est venu, qui était franchement en difficulté pour plein de raisons. Et en fait, il est devenu ingénieur du son dans une compagnie de sono, c'est-à-dire qu'il tourne avec des groupes, et il avait un article sur lui dans un canard spécialisé de sono, genre sono magazine, machin comme ça, où il était cité comme technicien de tel artiste et tout le tintouin, donc il était super fier de venir nous voir, et de temps en temps, on a des nouvelles des anciens, quoi.
Excellent. Est-ce qu'il est temps qu'on écoute un petit disque ou... Oui, Arnaud me fait signe que oui. Bon, alors d'accord, on écoute quelque chose. On écoute quelque chose qui est passé malheureusement toujours à la traverse, je crois, hier. Hein. C'est les Yardbirds. Ils sont passés dans le cadre du blues de la traverse. Je vais y arriver. Yardbirds for your love.
To your door, to fill you with delight. I give you time and stride. There'll be things that will excite and make you dream of me at night.
Il Yardbirds, Royal Love. Et il y a un truc que j'ai oublié de citer qu'on a vu aussi ce week-end. On a vu des trucs, c'est incroyable. À croire qu'on est ubiquique. C'est beau, hein, comme mot. On a vu un groupe qui s'appelle Big Trouble. Je crois qu'ils font que des reprises, mais c'était vachement sympa. Un bar dont j'ai oublié le nom, mais qui est l'ancien donjon de l'île Bonne. Voilà. C'est l'ancien donjon. On est toujours sur Radio Apple Pie. radio.ap.free.fr avec Sandrine et Paca du SEM. Et puis, on va continuer à parler un petit peu des stages.
Bah, oui, par exemple, moi je voudrais bien que vous décriviez en fait tous les sortes de stages que vous avez éventuellement dans le SEM.
Donc après le stage artiste sur scène pour les musiciens bénéficiaires du RMI, il y a une autre activité qui nous prend pas mal de temps, c'est dans le cadre du contrat de ville. Le contrat de ville, pour faire rapide, c'est des actions en direction des jeunes des quartiers. Donc ça, on fait ça depuis 4 ans. C'est-à-dire tous les ans, ce sont des espèces de contrats avec la ville. Enfin, les financeurs sont la ville, l'État, la région, sur des actions en direction des jeunes des quartiers. Ça peut être tout à fait culturel, sportif, etc. Donc dans notre cas, évidemment, c'est assez musical. Donc ça a été, je dirais, il y a 4 ans, quand on a commencé, on s'est retrouvé avec ces jeunes des quartiers qui, à 99,9%, pratiquent les musiques rap. Qui a priori n'était pas spécialement compétences, quoi. Tout s'est passé vachement en termes de relationnel, c'est-à-dire que il y avait des jeunes qui avaient une espèce d'urgence, la soupape était à fond.
Comment s'est passé l'approche? Parce que est-ce que c'est eux qui sont venus me voir ou c'est comment s'est passé?
Alors l'approche, c'est-à-dire que c'est quelque chose de relativement institutionnel, donc il y a un cadre assez précis où on doit effectivement annoncer une action avec des objectifs, avec des contenus, avec un nombre de participants, un âge, une localisation géographique. En fait, à l'arrivée, c'est très simple. Le Havre, les jeunes des quartiers, c'est qui? C'est le Bois de Blé, c'est Cocry, c'est la Main Rouge, etc., Montgaillard. Et en fait, on s'est dit, bon, ces jeunes-là, ils veulent faire de la musique. Ce qui leur manque, la plupart du temps, c'est des locaux, c'est des gens pour les conseiller. Nous, on n'est pas des rappeurs, mais la musique, on connaît. On peut certainement les aider d'une manière ou d'une autre. Et les animateurs de quartier, qui étaient un petit peu nos référents, nous ont dit ils viendront pas au SEM. Parce que le SEM, c'est le centre-ville, et la musique qu'ils jouent, ça se passe dans le quartier, il y a un microclimat et tout ça, ils viendront pas vous voir. Ben, ils sont venus. Ils sont tous venus. Ils sont venus, et au début, bon, bah, ça s'est passé relativement simplement, c'est-à-dire que eux, ils avaient un répertoire, c'est-à-dire des textes, des instrus, ils appellent ça des instrus, c'est-à-dire les bandes musicales qui sont enregistrées sur MAO, ou alors sur des... qui sont piquées sur du rhythm and blues du marché, tout ça, quoi. Donc on a essayé de leur donner des espèces de méthodes de travail, quoi, en disant voilà, ton texte, on comprend pas bien ce que tu dis, par exemple, faut faire attention, le rythme que tu donnes dans les mots, la musique, vous repiquez des trucs, bon super, ça vous dépanne, mais peut-être vous pouvez essayer de travailler différemment, être plus créatif, faire vos propres choses. Donc on avait quand même un allié assez sérieux, c'était le studio Franklin, le studio de Florent Barbier, ancien batteur des Roadrunners, qui est en fait une asso dans l'asso OSEM. C'est-à-dire qu'il a son studio OSEM, mais il développe ses propres activités. Et pour le coup, lui, il avait un savoir-faire à mettre sérieux, à mettre en œuvre. C'est-à-dire que lui savait travailler avec les groupes de rap, connaissait les sons, connaissait les technologies qui vont avec. Et nous, les autres, on était profs et on a réussi à construire quelque chose. Et après, on a commencé à se poser les questions. Bon, ce qu'on fait, c'est sympa, mais jusqu'où on peut les amener, quoi? Et ce qu'ils font, c'est un travail musical. Il faut pousser le bouchon, il faut essayer de les amener à écouter autre chose, à développer leur histoire, et aussi à les mettre en réseau, parce qu'il y a des sacrés réseaux dans le rap et tout ça, quoi. Donc tout ça, ça nous a pris 4 ans pour arriver aujourd'hui à un stage qui s'est passé très récemment avec un batteur qui s'appelle Ravi Magnifique, quelqu'un qui travaille dans la région parisienne, aussi avec des jeunes des quartiers, qui lui a dit, bon bah écoute, j'ai essayé de lui expliquer ce qu'on attendait, c'est-à-dire les mettre en phase entre les technologies et la musique, quoi. Enfin, c'est-à-dire la musique pratiquée par les musiciens et tout, quoi. Donc on a concocté un stage ensemble. La dernière mouture, c'était le challenge, c'était, il faut qu'ils repartent avec des notions musicales, y compris même sur la théorie, qui soit capable d'après d'avoir, qui a un avant et un après, c'est-à-dire qui réalise que ce qu'ils font, c'est quand même sur la base d'instruments existants, sur la base de compositions existantes et tout ça. Et ça a super bien marché. C'est-à-dire qu'il s'est mis derrière la batterie, il leur a appris à chanter la batterie. Ah bah ouais, pom, tac, pom, pom, pac. Les différents éléments de la batterie, qu'est-ce que c'est? Une grosse caisse, une classe claire, un charlet, ça a une fonction, ça peut s'écrire. Ils ont appris à écrire ce qu'ils chantaient. C'est quand même pas négligeable. Et après, en deux jours, à l'issue des deux jours, il fallait qu'il puisse jouer de la batterie, du piano, chanter de la basse. Et ça l'a fait. C'est-à-dire que très succinctement, il a remontré les techniques de base des instruments. Il leur a dit, voilà, vous voulez faire du rap, très bien. Là, il n'y a pas de machine, il n'y a que des instruments. Vous connaissez les sons, voilà, ça marche comme ça. Pensez ce que vous aimez, chantez-le, écrivez-le, puis après on le joue. Voilà.
En combien de jours, David ? Deux jours ?
Deux jours.
Mais là, justement, oui, par rapport à ce que dit Pascal, tu dis que ça a été sur 4 ans le travail. Est-ce que certaines personnes sont les mêmes depuis 4 ans ou comment...
Oui, ouais. Bien sûr. C'est-à-dire qu'au début, quand ces jeunes-là sont arrivés, ils venaient parce qu'ils avaient un intérêt qui était super, on va pouvoir repartir avec une instru à nous, faite en studio, et c'est vachement bien. Ils avaient totalement... qu'on n'aura pas payé. Sur quoi ils avaient parfaitement raison. Je crois que j'aurais fait la même chose à leur place. Mais nous, ceci dit, de notre position d'école de musique, on ne peut pas en rester là, quoi. C'est pas sérieux. Enfin, je veux dire, sinon on fait pas quoi. Et c'était pas de les fidéliser, mais en quelque sorte qu'ils réalisent qu'ils pouvaient avoir confiance en nous, qu'on essayait, on n'avait rien à vendre.
C'est le mot sur lequel je voulais revenir, la méfiance et la confiance, parce que au début, j'imagine que quand même c'était.
Au début, c'était quand même assez spécial, quoi. Ouais. Ils arrivaient le nez sous la capuche, bonjour timide, mais maintenant ils viennent nous voir. Ouais. Ils viennent avec des questions, voilà. D'ailleurs, il y a des mômes qui sont venus nous voir en nous disant, par exemple, je veux sortir un disque, comment il faut faire ? Je voudrais qu'il soit dans les bacs, comment il faut faire ? Donc tout ça, ça nous a fait gamberger et ça nous a inspiré les contenus de nos stages. On a fait venir des gens pour leur expliquer que pour sortir un disque, voilà, il y a quand même, artistiquement, il faut être prêt. Après, techniquement, il y a des contraintes. Financièrement, on peut pas faire tout à fait n'importe quoi parce que tout coûte cher, mon pauvre monsieur. Voilà. Donc c'est au fur et à mesure, on a appris à se connaître. Nous, on a appris plein de choses. Ils nous ont appris plein de choses. C'était un échange. C'est comme ça qu'il faut le considérer. Et là, aujourd'hui, il y a des gens, ces jeunes-là reviennent nous voir, ils ont confiance en nous et effectivement il y a des têtes qu'on revoit souvent.
Et c'est des jeunes qui ont quel âge à peu près ?
Entre 13 et 25 ans. Le cadre légal, c'est 13 et 25 ans. Bon, alors ça dépasse parfois un peu, forcément. C'est cette tranche d'âge-là.
Je voulais revenir sur ce Ravi Magnifique. D'abord parce que son nom m'extasie complètement, ce qui est son vrai nom. Même extraordinaire de s'appeler Monsieur Magnifique et tes parents t'appellent Ravi. Déjà, c'est extraordinaire. Plus j'ai eu la chance de le rencontrer brièvement. Et il se trimballe aussi, et notamment pour ce stage-là, avec des percussions assez particulières. Je sais pas si vous voulez en dire quelques mots.
Oui, en quelques mots, on peut dire que ce garçon-là aime les musiques du monde. C'est sa spécialité. C'est-à-dire qu'au niveau percu, il est capable de jouer des tablas. Ça, c'est sa culture d'origine. Il est né en Inde. Il a grandi un petit peu en Inde. Il joue aussi de la musique latino. Il s'est intéressé à l'Afrique. Il a vécu dans ces pays-là un petit peu pour s'imprégner un petit peu de tout ça. Et pour finir, avec lui, je dirais qu'il a une école associative à Paris où les cours sont gratuits. C'est-à-dire que les jeunes de là-bas viennent chez lui, reçoivent des cours gratuitement. En échange, ils s'investissent dans l'association. Ils font des concerts sur lesquels ils ne sont pas rémunérés, mais en tout cas ils apprennent à pratiquer et à jouer de leurs instruments gratuitement.
Et c'est quelque chose qui est accompagné par des structures, Harris Orangis, puisque c'est là-bas que ça se passe, ou c'est ça, il y a des aides, c'est uniquement...
Lui, il a monté une structure associative.
Il a monté une structure associative qui s'appelle Tempo, c'est un petit peu le Mami Blue à vrai, pour ceux qui connaissent, avec Vincent. C'est vachement plus gros, c'est un ancien fort, un petit peu comme le fort de Tourneville. Et lui, là-bas, il a monté son école de musique et il a réussi à faire comprendre aux maires qui n'avaient plus de solution pour les jeunes. C'est quand même la banlieue sud du Paris, c'est chaud, faut le dire et tout ça. Et lui, il a dit, écoutez, vous savez pas quoi faire, attendez, faites-moi confiance. Moi, ces jeunes-là, j'ai quelque chose à faire avec eux. Et le maire a dit, banco. Bon, le maire, il a pas mis grand-chose sur la table, il a juste mis une espèce de zone de tolérance autour de cette école-là et de tout ce qui peut s'y passer en termes de circulation de gens, de bruit, de tout ça, quoi, et d'événements musicaux.
Non, je posais la question financière, du coup, d'accompagnement, parce que je me demandais si ça pouvait donner des idées à des gens, mais c'est pas si facile de donner des cours de musique gratuitement, quand même, non plus.
Il faut être un peu cinglé.
Voilà.
Et ce garçon-là, d'une certaine manière, par sa passion, il est un peu cinglé. C'est-à-dire qu'il s'est lancé là-dedans, ça fait un petit moment, je crois que ça fait plus de 15 ans qu'il fait ça. Et bien, c'est tellement un mec qui adore la musique qu'il s'est investi corps et âme là-dedans, ce qui est absolument pas simple. Absolument pas simple. Et en fait, à l'heure actuelle, il est pas rare que certaines actions qu'il a en tant que musicien, il joue avec des musiciens prestigieux de jazz, c'est-à-dire que ce qu'il gagne d'un côté, il le rebascule de l'autre dans son école pour que le lieu continue à fonctionner, quoi. Voilà.
Ah oui, il n'y a pas de secret.
Juste par rapport à ça, il y aura un concert le 15 décembre au volcan, au petit volcan. Avec les stagiaires dans le cadre, qui ont travaillé dans le cadre du contrat de ville, qui seront en première partie, Ravi Magnifique et son groupe après, et puis un bœuf du groupe et des stagiaires en finale de cette soirée-là.
Au Petit Volcan le 15 décembre, et c'est, il y a un prix d'entrée.
Il y a un prix d'entrée qui est de 50 francs, je crois, mais apparemment c'est déjà complet.
Alors, bon. On vous conseille d'y aller, de demander qu'il y ait une seconde soirée.
Je vois que ça...
En attendant, on va écouter quelque chose que vous nous avez apporté aussi, qui vient de loin, qui vient du SEM. C'est le plaisir, Pascal, qu'on parle encore
oui,
de Johnny.
Et Johnny encore.
Donc ça s'appelle Tokyo Overtones, on en parle après. Winter Ballads Between, je ne sais pas ce que m'a écrit François, mais c'est pas grave, on l'écoute.
Into car, you wear it once to pawn, take it over. If I get him so cold, I'm sure he wears all this train you're under.
Thank you.
On écoutait Tokyo Overtones, qui fait partie d'une compilation qui a été enregistrée donc, avec des élèves du Centre d'Expression Musicale.
Et Juliette va nous répéter le titre, qu'elle sait très bien d'ailleurs.
Sois brûlée, Pascal, maintenant je l'ai appris par cœur. C'était Winter Ballad Between Naked Trees. Une balade d'hiver, même plusieurs balades d'hiver au milieu des arbres nus. C'est une sensualité torride. Hein. Alors,
à la limite de l'érotisme, c'est
oui,
ça que tu voulais dire.
Voilà, c'est mais je, bon, après,
non, mais je t'ai compris.
Les auditeurs vont être troublés, il va y avoir des choses qui vont se passer dans le bar. Qui... hop, on n'est pas là pour ça. Hein. C'est pas parce que les femmes en Afghanistan enlèvent le haut que nous, on va enlever le bas. Elle est bonne, celle-là. Bien. Revenons à nos moutons.
Alors, ça, c'était pas prévu. Hein.
Qu'est-ce que tu veux
que ça se passe comme ça.
Pour parler un petit peu de vos petits élèves, qui ne sont pas tous petits d'ailleurs, on a tendance quand on parle d'école de musique à penser à des bambins, aux chères têtes blondes ou brunes ou quoi que ce soit, mais en fait pas forcément. Alors qu'est-ce qu'ils apprennent comme instrument? Combien sont-ils? Tout ça, tout ça.
Eh ben, on a, l'année dernière, ils étaient aux environs de 400.
Wow.
Cette année, on a démarré à peu près à 320, quelque chose comme ça. Ce qui peut augurer qu'on va finir l'année à peu près dans les mêmes chiffres d'élèves. Donc, qui sont-ils? Ils vont de. On commence très jeune, il y a l'éveil musical, donc il y a les mômes. Il faut les prendre de bonne heure. Donc, on les a à partir de 3 ans jusqu'à. Une soixantaine d'années, je pense.
Si on laisse quand même toutes mes chances.
Exactement, Juliette. Mais bon, ça, c'est un petit peu l'idée, quoi. C'est que il y a toutes sortes de gens. Et des gens, je note quand même qu'il y a un renouveau dans le public du SEM. Souvent, c'est des parents qui ont envoyé des mômes, qui eux-mêmes avaient fait un peu de musique, mais il y a longtemps, et qui se disent, j'y retournerai bien.
Ah ouais?
Ouais. Il y a un phénomène comme ça. Et ce phénomène-là, il est vachement marrant parce que ça donne des ados dont finalement on pourrait être, en tout cas en ce qui me concerne, leurs parents au niveau de l'âge, et qui ont dont la discographie ressemble étrangement à la nôtre. C'est-à-dire qu'il y a des mômes à l'heure actuelle de 15-16 ans qui demandent à jouer du Led Zeppelin, du Cream, des Saints, des Ramones, des choses comme ça. Donc ça, on sait bien que c'est la culture de leurs parents. Et ça a des effets quand même vachement précis sur la manière d'aborder la musique, quoi.
Mais alors, si vous continuez comme ça, dans quelques temps, les rockers vont à nouveau avoir du public, finalement.
Ah ben, on y compte bien, d'ailleurs. On y compte bien, on fait tout pour ça, avec nos petits moyens, mais on œuvre pour la bonne cause.
Plus concrètement, donc, qu'est-ce qu'ils apprennent comme type d'instrument?
Alors, il y a tous les instruments... spécifique aux musiques dites actuelles, c'est-à-dire qu'il y a batterie, basse, guitare, chant, clavier, etc. Mais en dehors de ça, il y a aussi des cours de cordes, violon, violoncelle, trompette,
saxophone,
accordéon.
Du chant.
Ouais. Du chant, il y a deux profs de chant. Voilà quoi, donc ça donne quand même un bon panel. Ces instruments là quand même, rien que les instruments définissent plein de styles musicaux différents, quoi.
Toi, Paca, on reviendra tout à l'heure sur ta grande carrière.
Musicien j'y compte bien.
Internationalement connu.
On va faire une demi-mission.
Oui, bon, on pourra le prendre comme invité principal une autre fois, mais enfin, on reviendra tout à l'heure un peu sur tout ce qu'il a fait. Mais justement, il y a quelques autres, si j'ai bien suivi, illustres professeurs encore au SEM. Tu pourrais nous en citer, vous pourriez nous en citer quelques-uns peut-être?
Des illustres professeurs.
On a Alan Fatras, batteur des Scamps,
voilà.
Qui a joué avec Moon Martin aussi.
On a, puisqu'on est sur les batteurs, restons-y un petit peu, on a un certain Pax, qui était le batteur de City Kids, qui travaille lui sur les ateliers, c'est-à-dire c'est sur les groupes qu'on forme avec les élèves, qui répètent à l'Agora, parce que nous on n'a plus de place au SEM, on est plein. Donc c'est lui qui depuis cette année a pris en charge ça, qui travaille aussi avec nous sur le contrat de ville et tout ça. On a Thomas Chetel, qu'on a entendu, il joue du clavier, mais on l'a entendu à la batterie tout à l'heure jouant en morceau de MC5, comme quoi il faut être très polyvalent dans ce métier-là.
Est-ce qu'il y a toujours Dominique Delahaye, Soraya?
Non, ils sont plus là. On a comme prof de chant l'ex-chanteur de Nothing, qui était un groupe de métal de Rouen, Fusion et tout ça, qui a beaucoup de succès, en fait, parce qu'il n'y a pas énormément de profs de chant dans le secteur de ces musiques-là. Et lui,
mais je meurs, excuse-moi, je suis désolée.
Je t'en prie, Julien.
entendre Metal Prof de chant, ça me fait hurler, je suis désolé, mais
ouais, alors,
que ça soit excellent.
Mais non, mais justement, on peut en parler. C'est-à-dire que dans le métal, vu le style, enfin, vu physiquement, vu les contraintes physiques que peut avoir ça, lui leur apprend, en gros, je vais résumer très vite, mais c'est comment ne pas se bousiller les cordes vocales en très peu de leçons. Il fait pas que ça, hein, mais pour ces musiques-là.
Il a suivi un module de phoniatrie à la faculté de médecine pour pouvoir réparer les cordes vocales. Enfin, c'est tout un travail sur la respiration, sur le contrôle, sur la réparation même des voix abîmées. Il travaille là-dessus.
Hein. Ouais, complètement.
Magnifique.
Voilà. On a Olivier Durand,
déjà cité précédemment dans l'émission.
Précédemment, mais dont on pourrait parler quand même brièvement de ce qu'il fait par ailleurs. Parce qu'on dit Olivier Durand, d'accord, mais encore.
Bah, Olivier Durand, c'est guitariste de Little Bob pendant pas mal d'années. C'est maintenant guitariste d'Eliott Murphy. Moi, personnellement, je trouve que sur le A, c'est un des musiciens que je connais qui a la carrière la plus épanouissante. C'est-à-dire qu'il joue beaucoup, il y a des albums qui sortent vachement souvent. Voilà quoi.
Il est tout le temps parti, pas vrai, Sandrine?
Ça, c'est le problème. Bon, ça, elle avait qu'à se marier avec un boulanger, par exemple.
Voilà. Le boulanger est plus souvent là. Il est levé plus tôt aussi en même temps. Ça, comme quoi, rien n'est
pas. Un autre film. Une autre musique.
Est-ce qu'à votre avis, on a fait le tour en ce qui concerne l'école de musique, l'aspect école de musique? Il y a sûrement encore des tas de choses à dire, mais.
Non, on n'a pas fait le tour, mais en même temps, à un moment, il faut nous arrêter, il faut nous dire stop, on peut parler d'autre chose. Hein, on peut parler musique, on peut parler d'autre chose.
Juste ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a, c'est vrai qu'il y a un public très très varié dans les tranches d'âge, donc ça va de 3 ans jusqu'à des personnes qui commencent la musique à la retraite, dans les styles musicaux, dans les instruments enseignés, dans les origines sociales, dans les milieux culturels, dans les volontés musicales aussi, et je trouve que c'est vraiment bien qu'un lieu comme ça existe, parce que ça permet à plein de gens de se croiser et par l'intermédiaire de projets de travailler ensemble. L'année dernière, on a fait un projet avec Eliott Murphy, puisqu'il était dans les murs pour enregistrer un disque, c'était très facile de le faire venir à moindre coût. Il l'a même fait gracieusement, très gentil de sa part. Donc de venir rencontrer les élèves, de mettre des morceaux à disposition, et ça a permis de fédérer, en fait, de faire se rencontrer plein d'élèves autour de morceaux. Ils ont travaillé ensemble. Ça a permis aux professeurs aussi de travailler ensemble, d'écrire des arrangements. Ça finit par un concert et par un enregistrement. L'année d'avant, on avait fait un disque aussi en rassemblant les groupes des locaux de répétition avec les élèves. On a fait des concerts comme ça aussi.
Bah oui, il y avait un grand concert à l'Agora aussi. Qui avait mélangé à la fois des élèves.
C'était la salle François 1er, je crois, Juliette. Mais
il y a quand même eu un concert à l'Agora où je suis complètement.
Si, exactement. Le dernier.
Tu me fais dire.
Merci, Juliette, merci.
Non, mais je me souviens d'un petit passage parce que j'étais au stand de disques. Où Gilles, qui faisait partie à l'époque de Betty, je crois, je ne sais pas si c'était Gilles ou Betty, avait joué avec un certain nombre d'élèves, donc un petit souvenir de ça.
Exact. Mais ce sont des projets, en fait, qui permettent tous les ans de faire se rencontrer les gens autour de morceaux, de musique, et c'est vraiment bien.
Puis ça permet de se rendre compte que dans cette ville-là, qui a quand même un passé historique rock assez balèze, que la nouvelle génération est vachement bien représentée, que je pense qu'il n'y a jamais eu autant de groupes qu'aujourd'hui, et que ça se bouscule au portillon, et c'est très bien. Voilà.
Et d'une qualité aussi toujours grandissante.
Donc d'un point de vue humain, affectif et musical, vous êtes comblés, et tous les participants sont comblés. Et d'un point de vue de ce qu'en pensent les hautes autorités, qui devraient être super admiratifs par rapport à un boulot comme ça, avec des réalisations tout à fait concrètes, qu'est-ce que ça donne?
C'est plus compliqué. Ah. Étrangement, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que, personnellement, j'ai découvert cet aspect-là des choses, moi, musicien de rock, a priori, plus attentif à ce qui se passe au niveau des musiques, j'ai découvert cet univers des institutions qu'on appelle mairie, conseil général, conseil régional. Et en fait, je crois que y a un sacré décalage entre ce qui se passe sur le terrain et ce que ces gens-là s'imaginent. C'est-à-dire que je crois même qu'ils ne réalisent pas à quel point les choses les dépassent, que la population qui les intéresse, c'est-à-dire on parle beaucoup de jeunes, et de moins jeunes d'ailleurs au SEM, mais en fait, quelle partie ils pourraient même tirer, là je vais un petit peu dans leur sens, c'est la première et la dernière fois de l'émission, mais que quand même il y a beaucoup de jeunes dans cette ville-là qui sont absolument concernés par ces musiques-là, et eux ils voient immédiatement une espèce de milieu complètement alternatif et incontrôlable, et que souvent cette école-là a été identifiée à travers ces mots-là. Et c'est une connerie, parce que les gens, qu'on joue du rock, qu'on joue du Bach, on se réalise, et ça épanouit la musique. Voilà. Et ça, si ce message-là, un jour, pourrait être entendu par des personnages politiques, on aura gagné quelque chose. Quoi. On ne peut pas dire qu'on n'y travaille pas, mais pour l'instant, il reste encore beaucoup de temps à passer pour convaincre.
Cela dit, quand tu dis que les jeunes intéressent ces décideurs-là, j'en doute sérieusement, je pense que c'est plus les voix des électeurs qui les intéressent, donc à partir de ce moment-là, peut-être qu'ils peuvent se dire, oui, ça peut calmer les gens, la musique adoucit les mœurs, mais j'ai l'impression qu'ils ne voient pas beaucoup plus loin que ça, franchement.
Ce qui semblerait prouver que, en règle générale, la politique et l'épanouissement des gens ne font pas forcément bon ménage. Modestement, on essaie de contribuer à cet effort de guerre. L'avenir nous dira si on est entendu ou pas. Pour l'instant, c'est extrêmement difficile dans cette ville-là. Extrêmement difficile.
On commence à avoir une reconnaissance, en fait, plus au niveau de la DRAC, la Direction Régionale des Affaires Culturelles. Donc là, c'est le ministère qui réfléchit beaucoup actuellement, justement, sur comment on peut enseigner les musiques actuelles, comment on peut encadrer, comment on peut aider. Donc là, on commence à avoir même un échange constructif sur le travail qu'on fait, donc une certaine reconnaissance. De la région aussi, ça commence à arriver. Du Conseil Général, on a une subvention qui est là depuis le départ, au prorata du nombre d'élèves, qui est calculé très méthodiquement, mais qui, à la limite, a le mérite d'exister. Par contre, avec la ville, c'est vrai que, par rapport au budget global de l'association, on a une subvention qui est dérisoire, qui est arrivée il y a 2 ans. Avant, on n'avait rien. Donc,
au bout de 15, pour rappeler.
Oui, au bout de 15 ans, quand même. En fait, ils nous ont attribué une subvention de fonctionnement de 50 000 francs. Et on a un budget annuel de 2 millions de francs, en fait, avec toutes les activités qui ont été déjà nommées. Et c'est vrai que c'est dérisoire. Et on est en perpétuel échange, dialogue avec la ville pour essayer même d'avoir une reconnaissance autre que financière, que ce soit un échange, une reconnaissance du travail et des pratiques. Et là-dessus, c'est vrai que c'est un travail de longue haleine.
Oui, non, parce que ça, c'est presque comique, quoi. C'est, comme on dit souvent, si ça donnait pas envie de pleurer, on en rirait. Mais on a eu des cas, de toute façon, c'est bien. Ici, pratiquement tous nos invités, dès qu'ils sont confrontés à des demandes d'aide logique dans un travail qui réalise dans le même type de problème, parce qu'on avait eu Kassem et le Ring de l'Estuaire qui nous expliquaient des subventions qui étaient d'un ordre à peu près équivalent. Mais c'est vrai que 50 000 sur un budget de 2 millions, effectivement, ça fait rire. Bah, espérons que ça va progresser, puisqu'il y a déjà quelques aspects positifs.
Nous, c'est ce qu'on se dit, de toute façon, chaque fois, ça peut pas être pire, donc allons-y.
Vous lâchez pas l'affaire, de toute manière.
Non, si on l'aurait lâché depuis longtemps.
On va écouter on va continuer avec la musique du SEM en écoutant Flag. Flag qui a joué sur un CD de soutien au SEM qui est sorti il y a à peu près 2 ans, rectifiez si je me trompe, qui est toujours en vente à l'Apple Pie et dans les bonnes maisons. Et on écoute A Trick or Two.
Very far, you seem to live in the seaside bar. You never listen, you don't put out. You never look so very proud. I can tell you're so excited.
Apple Pie, Radio Apple Pie, il y a un petit peu de flottement, on ne peut pas nous faire de mal, ça prouve au moins qu'on ne coule pas.
Ah, 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 ah. Ouais, ouais, encore un peu de nous sort un peu de temps, là, je trouve que...
Même pas fumé, en plus.
Hein. Prend,
On continue à cuisiner Sandrine
oui.
et Paca.
Oui, donc on va parler...
Alors, on va
peut-être
parler...
Peut-être des groupes éventuellement qui répètent
ouais.
nos locaux.
Exactement, c'est ça qu'on voulait savoir. Hein.
Auriez-vous des noms à nous donner ?
Oh, des coupables. On a certains noms à donner. On a une dizaine de groupes, dont les Backsliders, que nous ne présentons plus, je pense, dans cette émission.
De toute façon, toute la foule de la Pote Pie est debout.
Déjà.
Standing ovation.
Escande François, les Rats de Lézard. Qui vont bientôt sortir un album, si je ne me trompe pas.
Non, qui vont enregistrer l'album là.
Ils n'ont pas encore enregistré, non. Mais qu'est-ce qu'ils foutent ?
Il y a eu des petits problèmes, mais c'est résolu, ils enregistrent la semaine prochaine.
Ils ont déjà la maquette de la pochette, en tout cas, je l'ai vue.
On espère que nous allons sortir pour Noël. Ça fera un super cadeau.
On espère bien. Nous avons Crumble Lane avec des Alan Fatras, dont on a déjà parlé dans l'émission, le batteur des Scamps à la batterie. Et
les frères Morel qui étaient dans les Screech Shows le savant, donc Mathieu Morel.
The Famous Brothers Morel.
Voilà. Ancien élève du SEM aussi, il faut le dire.
Ah. Vous les avez nourris à votre sein quasiment.
Oui. Oui, bien sûr.
Rouge Délice.
Alors ça, c'est les derniers arrivants. Là, on est plus dans la famille techno. Vachement bien. En plus, c'est une techno qui est marrante parce que...
Il y a plein, tout un tas de mélanges.
Exactement. Il y a de la percu, il y a de la guitare, il y a des machines, il y a un DJ, il y a tout ça. Et c'est bien. C'est un espèce de 109 qui est en train d'arriver dans la maison. Et en plus, ils ont payé leur personne parce qu'ils se sont fabriqués leur local de répète dans le SEM. C'est-à-dire que de deux petits locaux, ils en ont fait un grand en cassant les murs et en s'installant. Donc voilà.
Les Midnight Movers.
Midnight Movers, à mon avis, qui ont déjà été cités dans cette
émission. Oui, les auditeurs connaissent aussi, il n'y a pas de problème.
Il y a Forehead aussi qui partage.
Forehead, bien sûr, qui partage le local des Backsliders. Les Forehead, si vous nous écoutez.
Betty.
Oui, enfin, c'est plus Betty, mais la suite de Betty.
La suite de Betty, on va dire.
Pour ceux qui connaissent,
Gilles. Voilà. Gilles. Alors Gilles, qui vient de sortir un album, qui d'ailleurs est en vente également dans les meilleurs endroits du moment.
70 francs. La folie ordinaire,
qui va enregistrer un deuxième album.
Ouais.
Très attendu chez Florent Barbier, toujours au studio Franklin.
Les gens vont encore croire que Radio Apple Pie c'est Radio Copinage, mais qu'est-ce que les gens disent ? Les gens qui ont du talent se connaissent,
bah,
forcément.
C'est difficile de faire autrement, on parle de la famille.
Bah voilà, on a reçu il y a 15 jours les Mobs et Travaux d'une part, et aussi la Papas Production, et on a abondamment parlé de la folie ordinaire, puisqu'ils font aussi partie de ce collectif-là.
Tout à fait.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Non, mais c'est formidable parce qu'en fait, ça pourrait faire rire, mais ça pourrait donner l'exemple à plein de villes, c'est pas le cas partout. Moi qui suis une néophyte à Vraise, parce que ça fait seulement quelques années que je suis dans cette ville, j'ai quand même constaté qu'il y avait, j'espère que vous n'allez pas me contredire, une grande solidarité, des grands échanges justement entre toutes sortes de groupes qui ne jouent pas forcément la même musique, des tas de collectifs, je veux dire que des endroits comme, on en parlera peut-être un peu après, Mamie Blue, le SEM, la Papasse et compagnie, arrivent à faire des choses sans rivalité, et bien au contraire.
C'est quelque chose d'assez, d'un petit peu récent. Je crois qu'il y a eu des chapelles à un moment donné, entre les groupes eux-mêmes, qui étaient assez fortes. Mais tout ça, ça a évolué. Je crois que les gens ont grandi, ont mûri. Et puis c'est vrai que maintenant, il y a un échange, il y a une solidarité, il y a une fédération, une structuration qui est en train de se faire. Par les acteurs, par les gens eux-mêmes. Et ça, c'est bien.
Moi, c'est l'impression que ça me donne. En même temps, je ne sais pas si c'est uniquement les vieux de la vieille qui ont pris un petit peu de plomb dans la cervelle, si je puis dire. Et est-ce que chez les jeunes, ça devient plus naturel.
Ouais, voilà. Tout à fait. Ouais. Ils s'échangent, à l'intérieur des groupes eux-mêmes. Il y a des musiciens qui jouent dans différents groupes. Il y a des échanges permanents, en fait.
Puis je crois que la musique a évolué aussi. Donc je crois que c'est de plus en plus d'échanges, effectivement. Ils s'imprègnent de différentes musiques. Ouais. Et ça se sent tout de suite, donc ils ont besoin de l'un de l'autre et ça se sent quoi.
Oui.
Donc ils échangent un maximum.
Et pour l'aspect plus pragmatique de ce côté locaux de répétition, donc avec tous les groupes qu'on vient de citer, est-ce que ça continue à représenter, puisque vous nous l'avez dit au début de l'émission, c'était le. le moteur principal de la création du SEM et de l'ouverture de ces locaux. Ça représente quoi en termes d'activité maintenant par rapport à tout le reste dont on a parlé, les stages divers, l'école de musique? Est-ce que c'est moindre maintenant l'activité location de locaux de
répétition? Oui, c'est moindre. Enfin, si on veut parler très, très franchement, en fait, c'est les locaux de répétition sur une année scolaire, en fait, sur une année entière, c'est 60 000 francs sur les 2 millions que représente le budget du SEM maintenant.
Ah ouais, okay.
Mais c'est une activité qui reste fondamentale, qui reste fondatrice et fondamentale. Le SEM peut vivre sans subvention, en autarcie, avec les locaux de répétition et l'école de musique. Après, les activités qui sont développées, ça permet de donner du travail à des gens, ça permet de salarier des gens, ça permet de faire fonctionner aussi tout ça. Mais ça reste une activité fondamentale.
Non mais oups, excuse-moi, je levais la main, ça se voit pas à l'antenne. C'était juste pour dire, tu fais bien de parler de ça, Sandrine, parce qu'en fait, on voulait aussi savoir comment l'équipe s'est agrandie, comment ça se passe, comment vous arrivez à en vivre les uns les autres. Mine de rien.
Bon, on arrive à en vivre, c'est déjà vachement bien.
Ils se marient entre eux en plus.
Ils se reproduisent.
Ils se reproduisent.
Vous n'êtes pas sortis. La menace. On arrive à en vivre. L'équipe, en fait, au niveau des permanents, là, heureusement qu'il y a des emplois aidés, type contrat emploi jeune, contrat emploi consolidé, des choses comme ça, qui nous permettent d'avoir une équipe de permanents qui réalise le suivi, les projets, tout ça. Et puis sinon, il y a une trentaine de professeurs, quand même, sur l'école. Et puis des intervenants extérieurs, plus ponctuels, qui interviennent plus sur les projets, sur les choses très spécifiques, quand on a des professionnels qui viennent sur l'action artiste sur scène ou sur... Mais on essaie de valoriser quand même un travail et un salaire en face, enfin des choses comme ça.
Ouais, non, mais ça a l'air de rien comme ça, mais c'est il y a quelques années encore, c'est un truc qui aurait paru complètement hallucinant, donc c'est déjà vachement bien de l'avoir réussi. Et je vais revenir sur l'équipe de base, parce que... Et tiens, voilà qui c'est qui rentre dans le bar, c'est les Midnight Movers. Ouais, on en parlait justement à l'instant. Non, je reviens quand même plus sérieusement sur l'équipe, parce que... Quand vous nous racontez, même s'il y a 30 professeurs d'un côté, différents intervenants de l'autre, l'équipe de base, c'est énorme ce que vous gérez. Vous avez des journées de 24 heures, vous ne dormez pas, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez de la coke?
C'est-à-dire qu'il y a des moments où c'est un peu louf-dingue, on ne prend pas de coke parce qu'on n'a pas les moyens. En fait, c'est vrai qu'il y a des moments où c'est un petit peu, comment on peut appeler ça, je ne sais pas, exagéré au niveau du taf. Mais en même temps, il y a un truc d'expérience où on arrive à prendre du recul et puis à faire une chose après l'autre. Et puis, de toute façon, il y a des objectifs précis qui nous animent. Je crois que si on fait ça, c'est parce qu'il y a un endroit où ça nous pète la tête et que voilà, quoi. C'est-à-dire que l'énergie, elle vient toute seule. On commence à travailler sur un projet, on se fait attraper par les choses. Et les choses qu'on attrape, c'est les choses qu'on a envie d'attraper aussi. Donc finalement, tout ça reste proche de la musique et des musiciens. Pourquoi est-ce qu'on se met à jouer et à tourner? Bah, finalement, c'est un peu les mêmes raisons, quoi. C'est un peu les mêmes raisons. C'est parce que si on peut amener notre modeste contribution à l'effort de guerre dont je parlais déjà tout à l'heure, et ben on le fait, quoi.
C'est vachement bien, parce que c'est vachement mieux comme contribution que de filer le Charles de Gaulle à l'Amérique.
Exactement.
Par exemple.
Exactement. Sont différentes, faut bien reconnaître. Oui.
Mais en fait, on vous a présenté comme ça, hop, par-dessus la jambe, si je puis dire, tiens, pas qu'à Sandrine.
Je m'en souple, Juliette.
Mais on n'a pas dit quelles sont censées être vos fonctions. Et plus sérieusement, non, l'équipe de base, c'est combien de personnes en fait? Et qui fait quoi?
Ben en fait, moi, je suis arrivée en 95. Le bateau était un peu en flottement, comme tu disais tout à l'heure. Il y avait des professeurs, mais c'était un peu... il y avait pas vraiment de direction, parce que de toute façon, il n'y avait pas d'argent pour ça. Enfin bon. Et moi, j'étais étudiante à l'époque, donc j'ai fait un stage au SEM, ce qui était très bien pour moi, parce que j'ai pu apprendre le travail sur le tas et ne pas avoir de grosses frayeurs, puisque de toute façon, la situation était très douloureuse et je pouvais pas faire vraiment de grosses bêtises. Et donc moi j'ai fait un stage de 2 ans, puisque j'ai fait un DESS qui durait 2 ans et mon stage devait avoir la même durée. Et donc à la fin de ce stage-là, j'ai pu me rémunérer un petit peu, un quart de temps, après un mi-temps, après un temps plein grâce à un fonds régionalisé d'initiative à l'emploi. Et puis ensuite, on a pu salarier Pascal sur un mi-temps de direction pédagogique grâce à l'action artiste sur scène, qui a permis en fait de valoriser un travail qui de toute façon était à faire, cette coordination pédagogique. Et puis il y a eu un contrat emploi jeune à peu près en même temps, qui avait été fait autour de Sébastien Cavelier, qui était guitariste du groupe Betty, qui était avant objecteur de conscience au SEM et qui est devenu contrat emploi jeune dans la structure, qui est parti au mois de juin de cette année, qui a remplacé là maintenant. Et puis il y a un deuxième contrat emploi jeune qui est arrivé en septembre l'année dernière sur toutes les activités d'enfance, parce qu'au niveau de l'éveil musical, il y a énormément de projets, de choses qui se mettent en place, du travail en partenariat avec les écoles, avec les centres de loisirs. Et c'est vrai que par là, il y a énormément de travail et ça semblait important que le SEM s'investisse là. Voilà, donc l'équipe de base, elle est comme ça.
Une histoire de passion, on peut le dire, avec une équipe toujours vachement motivée et qui arrive un petit peu à salarier. Ça, c'est déjà vachement bien. Là-dessus, on écoute Artefact qui va nous chanter Live. C'est encore une compile du SEM.
Why? Why the devil? aussi la mort.
Toujours sur Radio Apple Pie, en direct dans le bar de l'Apple Pie et en léger différé sur le net avec nos amis, les invités du SEM. Je voulais vous signaler qu'on a quelques places. Alors là, c'est vraiment pour les gens qui sont dans le bar. J'espère que vous êtes attentifs. Il nous reste quelques invitations à gagner pour les concerts de La Traverse à Cléon, notamment l'Aventure du Jazz le vendredi 23 novembre. On en a quand même 4. Bill Perry et Mason Kazay le samedi 24 novembre, on en a 4 également à vous proposer. Et The Ladies of Song, qui a l'air quand même vachement intéressant parce que c'est du gospel. En tout cas, j'adore ça. Si vous ne prenez pas les invites, je m'en garderai une pour moi. Le mardi 27 novembre. Donc c'est à La Traverse, une excellente salle où nous sommes allés, comme je vous l'ai dit, voir Eddie and the Hot Rods samedi dernier. Et si vous voulez des places, vous venez nous demander à la fin de l'émission. Voilà, on est toujours avec Sandrine et Paca du SEM. Et il nous reste à parler un petit peu des différentes collaborations. Je déteste dire un petit peu, hein, ça fait Guillaume Durand, vous voyez ce que je veux dire. Bon, il nous reste à parler beaucoup des différentes collaborations.
En plus, tu lui ressembles pas du tout.
Ah, merci. Du SEM avec, par exemple, Mamie Blue, le Jupeau, l'Agora, que sais-je. Enfin, ça existe ou ça n'existe pas, vous allez nous le dire. Vous allez nous le dire.
Donc, je crois que Franck Tester en a parlé l'autre soir. Il a un peu vendu la mèche sur un réseau qui est en train de se construire. Bon, pour le moment, on est 4 à travailler autour d'une association, de la création d'une association, qui a pour objectif principal d'essayer de sensibiliser nos amis institutions sur le sujet qui nous préoccupe, c'est-à-dire les musiques actuelles, pour essayer d'obtenir un partenariat, des échanges et puis des moyens humains et matériels et financiers. Donc ce collectif pour le moment est fait de 4 associations fondatrices, donc le SEM, l'Agora, Nécessité et Papas Productions. Très vite on va ouvrir cette chose-là. C'est vrai que pour le moment parce que déjà travailler à 4 associations aussi différentes que celle-là, c'est déjà pas si facile. On a écrit des statuts, on a mis en place des objectifs, on cherche des financements pour commencer à mettre en place les bouts de ficelle là. Et puis on voudrait faire pour le mois de juin des rencontres, un colloque où en fait on pourrait rassembler tous les acteurs locaux, expliquer un peu les buts, les objectifs, et puis là s'investiront tous ceux qui le souhaiteront. Après, chacun à la mesure de ce qu'il pourra ou de ce qu'il voudra faire. Donc les pistes quand même, ce serait de mettre à disposition des outils très précis, un site, un annuaire, des guides, un peu ce qu'il y avait hein, au niveau régional, d'essayer de faire quelque chose de local pour pouvoir communiquer ce qui se passe à l'intérieur de la ville, mais aussi emmener ça à l'extérieur. Et puis des tas de choses comme ça qui peuvent être mises en commun à toutes les associations musicales qui existent sur la ville et qui pourraient permettre de simplifier le travail à tout le monde, en fait. Voilà.
Ça, moi, je trouve ça merveilleux parce que j'ai toujours été très partisane des échanges de plans en tout genre. Je crois que, bon, la plupart des gens de Radio Apple Pie sont branchés là-dessus. Nous, on veut bien reparler quand vous voulez. Peut-être inviter un jour toutes les associations autour d'un projet commun. On aura peut-être le temps d'en reparler.
À la radio ?
À la radio, bien entendu.
On va poser le micro. C'est des bêtises, Juliette.
Bah, tu doutes de nos camarades techniciens, ils vont
pas
nous trouver.
Pas du tout, je sais qu'ils sont capables de
rien. 12 micros, 4 tables de mixage, ils vont nous faire ça bien, 12 baffles et tout. Bon, c'est sûr, il n'y aura plus de place pour le public, mais on fait ce qu'on peut. Alors sinon.
Oui.
Qu'en penses-tu, mon cher Candide?
Oui, bah pour l'instant, je pense que.
Tu crois qu'on a fait un petit peu.
On a fait à peu près le tour des choses, oui. À moins qu'ils aient, eux, pensé quelque chose de plus et que.
Qu'on aura oublié.
Ils veulent rajouter un petit mot. Des projets vraiment immédiats ou
Disons que ce qu'on peut dire, c'est que vous pouvez nous inviter dans l'année 2002, parce qu'on aura certainement d'autres choses à raconter. On a quand même pas tout dit ce soir.
Donc le SEM,
on en garde toujours un petit peu en réserve.
Suivre.
Voilà.
Tout à fait.
Il y a 2-3 petites choses qui se préparent, à mon avis, qui pourraient être vachement bien pour cette ville-là, dans le milieu de la musique. Et on vient quand vous voulez.
Putain.
Bon, bah, vous venez quand vous voulez, c'est vrai.
Merci, alors.
On va écouter encore un morceau de musique. Et d'abord, on vous remercie tous les deux d'être venus. On vous demande de rester un petit peu, si vous voulez, pour écouter les chroniques de Pascal qui va nous
vous
parler.
Vous pouvez faire comme les meubles de travaux, vous pouvez jouer aux fléchettes aussi, si vous voulez.
Bah, moi, je déconseille. Hein, c'est assez
déstabilisant pour nous, mais bon.
Jerry va nous parler de musique. Pascal va nous parler de romans noirs et de bandes dessinées. On écoute un morceau d'abord. On commence à le connaître maintenant, à le connaître et à l'attendre avec impatience. C'est le générique de la chronique de Pascal. Il va nous parler de Polar et de BD et dans un premier temps d'une bande dessinée d'ailleurs.
Et oui, tout à fait, Juliette. Alors, à mon avis, c'est pratiquement la bonne année de l'année. Ça s'appelle La lecture des ruines de David B. C'est aux éditions Dupuis, ça vaut 80 francs. Et en fait, bon, David B., c'est un dessinateur scénariste hein, qui est au niveau d'origine, qui est donc quadragénaire. Et il se dessine tout d'abord à la pub, mais finit par adopter la BD, parce que bon, la pub ça l'intéressait plus trop. Et donc en 85, il sort un premier jet de scénario sur une BD qui paraît chez Glénard, qui s'appelle Pas de Samba pour Capitaine Tonnerre, qui est franchement pas mémorable, on peut le dire quand même. Après il travaille pour Okapi, Bayard Press, des choses pour les enfants. Il publie des choses aussi dans un magazine qui s'appelle Chic, qui est dirigé par Jacques Loeb. Bon, Loeb qui est quand même connu en tant que scénariste, pour ceux qui connaissent un peu les années 70. Il a fait Blanche et Fifi par exemple avec Pichard.
Avec Pichard, moi je déteste ça, mais enfin bon, chacun ses goûts.
Le Silly, bon, c'est quand même quelqu'un de reconnu dans le milieu. Et puis donc il a travaillé pour Asuive aussi. En 90, il publie deux albums au Seuil et pour la jeunesse. Un petit personnage qui s'appelle Le Nourrisson Savant, c'est plutôt marrant. Et puis en 90, donc, apparaît aussi, il fait partie de la création de l'association, l'éditeur de l'association. Bon, qui était à l'époque pas très connu, mais qui depuis maintenant est quand même devenu une boîte d'édition un peu alternative et qui est très publicité par le public. Donc il publie des choses dans le journal Le Lapin, qui est le journal de l'association, sous le nom de David B. Parce qu'avant, il s'appelait David Bochard, quand même, le tigre.
Ah, ouais.
Et donc, il décide de publier à ce moment-là sous le nom de David B. Entre 93, enfin bon, en 90, il publie quand même deux albums chez l'association, dont Le Cheval Blême, qui est primé à Angoulême pour le coup de cœur, la BD Coup de cœur. Donc, qui est quand même pas mal. En fait, le Cheval Blême, il raconte en fait ses cauchemars à travers la BD.
Ah oui, d'accord.
Donc c'est quand même quelque chose d'un peu d'angoissant, mais très sympathique. Entre 93 et 96, il travaille donc chez Cornelius, une boîte alternative aussi, et crée pour la revue Le Cheval Sans Tête une série de BD qui s'appelle Les Incidents de la Nuit. En fait, Les Incidents de la Nuit, c'est tiré d'un journal qui était publié dans les années 14-18, qui était un journal qui était un peu ésotérique, qui racontait le témoignage de soldats des tranchées, qui racontait en fait tout ce qui était un peu légende autour des tranchées, etc. Donc il a publié déjà trois albums là-dessus. Ça c'était entre 96. Et donc après pareil chez Kit Dargo, Le Temps du Carré, qui est plus une allégorie sur les légendes japonaises, toujours les légendes, quoi. Et en 96 aussi, pareil, chez l'association, le début de la série l'Ascension du Haut Mal. C'est ce qu'il a fait vraiment connaître au niveau du grand public, parce qu'en fait, il traduit, c'est vraiment autobiographique, en fait, il raconte les aventures, les mésaventures de son frère qui est épileptique. Donc c'est très original. En noir et blanc, un peu fantasmagorique, c'est très un peu dur, mais en même temps très poétique.
Des inspirations très variées, mais toujours sur des thèmes noirs.
Oui, oui, ouais, assez noir et en fait non, en même temps poétique, fait très proche du fantastique aussi. Donc il fait passer plein de choses qui pourraient paraître très dures, mais en même temps avec sa sensibilité personnelle qui est vraiment très intéressante. En fait, ces récits mêlent toujours bon, l'autobiographie, réflexion métaphysique, et toujours une subtile touche bon, fantastique. Et puis il a un imaginaire bon, très riche et très débridé, donc, ce qui fait que bon, ça passe toujours très bien. Puis maintenant, bon, il est devenu quand même le chef de file des auteurs bon, issus des années 90. Chef de file dont toute la bande, l'association, etc. Donc c'est quand même lui qui ressort du lot. Alors, la lecture des ruines. En fait, l'album par lui-même, il parle, ça commence en 1917, c'est un Hollandais, donc qui est un pays neutre à l'époque. Et ce Hollandais, il est folkloriste, c'est-à-dire qu'il parcourt les pays pour récolter toutes les légendes, toutes les idées de folklore des pays. Et en même temps, comme il est amoureux de la France, il se met à agent secret pour la France. Parce que bon, il trouve que la France est un beau pays, donc il estime que non, il n'y a pas de raison. Donc il veut bosser pour la France. Et en fait, le gouvernement français lui demande de retrouver, enfin c'est un prétexte plus ou moins, parce que en fait ce qui intéresse le gouvernement français, c'est qu'il monopolise un maximum d'agents allemands pour justement retrouver soi-disant un inventeur. Qui bosse pour la France à l'heure actuelle et qui est complètement déshabillé, biscornu. C'est-à-dire qu'il a un canon, il a inventé un canon à rêve C'est un canon qui envoie des obus dans le camp adverse et qui, soi-disant, en principe, doit...
créer des rêves.
Non, justement, il pique. Ça empêche les Allemands d'avoir des rêves.
Ah.
Donc, les Allemands, s'ils n'ont plus de rêves, ça ne les charge pas de, l'anxiété qu'ils ont en combat. Et donc, ils deviennent fous.
Ah oui.
Donc, il est chargé plus ou moins de retrouver ce savant sans que le gouvernement soit vraiment intéressé par ses retrouvailles. Et en fait, tout l'album va se retrouver là-dessus. Parce que bon, forcément, il y a le camp adverse qui veut le retrouver. Si. Et en fait... Tout l'album va être cette course-poursuite pour le savant, qui devient de plus en plus fou au fur et à mesure de l'album d'ailleurs, et qui n'a plus qu'un but dans l'existence, c'est de pouvoir faire la lecture des ruines. En fait, la lecture des ruines, c'est... Il a compris que en regardant les immeubles, etc., que la guerre, en fait, avait un langage. Et en fait, il voudrait comprendre ce langage pour pouvoir arrêter la guerre.
Donc c'est très d'actualité.
C'est finalement. Très d'actualité, justement. Et en fait, tout va être autour de ça. Il y a une poésie, il y a une invention dedans qui est vraiment complètement dingue. Et on retrouve aussi en fond de cet album une création qu'il avait faite avant, effectivement, le journal L'Incident de la Nuit, parce que bon, Van Mier, qui est hollandais, est visiblement créateur. On ne sait pas trop d'ailleurs si ce journal est existé ou pas, parce qu'apparemment il aurait existé. Et en fait, bon, Van Mier serait le créateur, lorsqu'il a été effectivement dans les tranchées, de ce journal qui relatait tous les événements un peu bizarres, un peu toutes les légendes, etc. Et en fait, bon, l'album par lui-même est l'allégorie, bon, sur la folie des hommes, sur la guerre, l'esprit de la guerre, etc. Et avec une poésie qui mélange en fait mensonge fantastique, poésie et récit fantastique et récit historique.
Sans savoir quelle est la part de la mythomanie et de la réalité.
Voilà, tout à fait. Ouais. Mais je crois que c'est surtout en fait un livre sur la guerre et la folie des hommes, quoi. Voilà.
Bah, c'est excellent. Donc ça s'appelle La lecture des ruines.
La lecture des ruines, effectivement. C'est édité dans la collection Air Libre chez Dupuis.
D'accord. Et est-ce que c'est un premier volume ou...
C'est un. Non, c'est une histoire toute seule.
Non, c'est une histoire.
C'est une histoire toute seule, oui.
Ça suffit à elle-même. D'accord.
Bah, donc voilà, bon, je pense que là j'ai dit ce que j'avais à dire sur la BD, effectivement.
Bah, on dirait, j'espère que ça a donné envie à nos auditeurs de lire cette BD, ouais.
Et puis on va peut-être écouter un petit disque éventuellement
avant de
passer à la chronique.
Avant de retrouver Jerry. Ouais. On l'a dit presque en cœur, t'as vu, on est bien.
Mais on commence à drôler, on répète tous les jours.
Alors le disque suivant avant la chronique de Jerry.
Yeah.
On écoutait Turbo Negro sur Radio Apple Pie et c'était Jerry qui avait choisi ce morceau. Jerry qui va commencer tout de suite sa super chronique Rock and Roll. Yeah!
Oui, alors je vais vous parler de la sortie du cinquième album des Californiens de Good Riddance. Donc, toujours pareil, hein, c'est un disque qu'il faut avoir chez soi. Donc, il y a des morceaux mélodiques, il y a des morceaux beaucoup plus speed et il y a quelques ballades, ce qui fait tout l'intérêt de l'acheter. Les UK Sub ressortent le dixième album, les Japan Today. Donc, c'est une réédition du dixième album. Et une réédition aussi du cinquième album qui s'appelle Flood of Flies, à des prix très raisonnables. Ludwig von 88, un très vieux groupe.
Oula.
Ça faisait au moins 3 ans qu'on attendait qu'il sorte un album. Donc là, ça y est, c'est sorti. Et le titre, c'est La Révolution n'est pas un dîner de gala. Citizen Fish, un groupe anglais ska punk, sort un album aussi qui s'appelle Life Size. Voilà pour les sorties. Autrement, je vous annonce un concert le 8 décembre à la salle Henri Matisse. Donc c'est le service jeunesse de Montivilliers qui organise ça avec les Rockers Sont du Cœur. Et donc il y aura quelques groupes de la compile Avresse qu'on a écouté l'autre jour, Test Tube City. Et puis je voudrais vous parler aussi d'un groupe de Lisieux qui s'appelle Déclac. Ils ont sorti 2 albums et c'est un groupe donc avec des paroles françaises, enfin en français, bah, et un groupe assez engagé. Et on va écouter un extrait de l'album, donc Ni Dieu ni Maître.
Un titre magnifique qui nous a été proposé par Jerry. Je voulais te redemander, Jerry, qu'est-ce que c'est que ce concert à Montivilliers, parce qu'en fait, les Rockers Ont du Cœur, on en avait déjà un petit peu parlé à l'antenne, c'est organisé régulièrement par Mamie Blue.
Oui, normalement, c'est par Mamie Blue.
Donc, il y aura encore un concert à Mamie, enfin, plusieurs concerts cette année à Mamie Blue, on aura l'occasion de vous redonner le programme. Et là, avec l'aide de Laurent, ils sont délocalisés, voilà, sur Montivilliers, c'est ça?
Exactement, oui. Et donc, justement, Laurent, il m'a appelé pour me demander si on voulait jouer le 8 décembre.
Donc, les Dirty Bugs jouent à Montivilliers. Ouais.
Et il m'a dit qu'il y avait plusieurs groupes de la compile qui seraient là. Bon, il y en a qui ne seront pas là parce qu'ils ont autre chose à faire. Et puis, il y aura d'autres groupes
du Havre ou des environs qui sont ici.
Bah donc c'est bien, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure.
Donc il est toujours pareil, l'entrée c'est un jouet pour ceux qui veulent venir.
On précise que c'est pas obligatoirement un jouet neuf, mais c'est bien de faire l'effort.
On peut amener les cochons si vous voulez, l'épluche est toujours bien.
Voilà. C'est bien de faire l'effort d'amener des beaux jouets, même si c'est des jouets qui ont servi à des enfants et qui maintenant ne les utilisent plus et veulent les offrir à d'autres. Vous pouvez amener plusieurs jouets si vous le souhaitez.
Surtout quand des fois à l'entrée ils en vendent des jouets et le prix est trois fois moins cher que dans les magasins. Quoi. Donc à la limite, si on n'a pas le temps d'aller acheter un jouet, on va à l'entrée,
on achète un
jouet tout neuf et pas trop cher.
Ouais, ça c'est vachement bien.
Ça c'est très bien. Quoi.
Et juste aussi, je voulais te redemander, Good Riddance, c'est un groupe que tu connais puisque tu les as déjà fait passer par ton association pour la caisse.
Ouais, on les avait fait passer. C'est alors des gens super sympathiques qui voulaient leur pâté végétarien. On a fait tout le mal
en plus sympathique parce que moi je suis végétarienne.
Je leur ai trouvé leur pâté végétarien donc ils étaient contents. On a fait tout le mal pour le trouver mais c'est très bien, ouais, c'est très bien comme groupe.
Tu peux nous rappeler le titre du disque qui vient de sortir? Peut-être pas, on ne sait pas. Enfin bon, en tout cas, ils viennent de sortir un disque. Vous allez vous précipiter chez les bons disquaires du Havre et vous allez les trouver. Jerry, tu voulais rajouter autre chose?
Non.
Pas pour l'instant?
Non.
Bon, on te retrouve dans 15 jours.
D'accord.
Merci. On va maintenant retrouver Pascal. Pascal, tu es omniprésent?
Oui.
Et ce soir, tu nous parles d'un...
Qu'est-ce qu'elle me raconte, Julien?
Tant que je te dis pas omnipotent, c'est déjà pas mal. On te retrouve avec un polar?
Oui.
Un polar qui se passe, si j'ai bien compris, au Havre.
En grande partie, oui.
Si j'ai bien compris, j'espère que c'est vrai, parce que je l'ai lu.
Tu l'as lu, la semaine dernière, si tu n'avais pas compris.
Qui s'appelle Quai des Désespoirs.
Voilà, tout à fait, de Roger Martin.
Voilà, Roger Martin qui n'est pas à Havre, par contre.
Non, du tout. Mais enfin, apparemment, il a quand même passé quelques temps au Havre. Il y a des amis en Havre.
Il était amoureux,
peut-être. Dedans, d'ailleurs, il fait référence à certaines personnes. Dans sa préface.
Allez, tu peux dire le nom.
Entre autres, Roberto Piazza, entre autres. Et puis donc, effectivement, donc il a passé quelques temps, la vie a dû lui plaire, donc il s'est dit, bon, pourquoi pas faire un polar sur cette ambiance de porc, et puis, etc. Quoi.
Encore les porcs.
Je ne peux pas dire, yes, merci.
Allez, en fait, bon, dis-nous tout ce que tu penses de ce livre.
Oui, d'accord. On va commencer un peu par la carrière de Roger Martin, parce qu'il est quand même prof de lettres à Carpentras, qui est quand même un lieu... mémorable maintenant, puisque l'événement qui s'est passé.
Parce que malheureusement, les morts n'y ont pas beaucoup.
Voilà. Il est spécialiste aussi des mouvements d'extrême droite. Je pense que ça a dû jouer énormément. Les phénomènes qui sont passés, ont dû jouer énormément là-dessus. Et en fait, il écrit pas mal de bouquins. Il a écrit pas mal de bouquins sur la droite, l'extrême droite, notamment l'affaire Pépère. Il y a un officier allemand qui s'appelait Pépère à une époque.
Ah oui.
Et on s'est aperçu qu'en 1976, il habitait dans un petit village en France et que personne ne le connaissait, etc.
Ah ouais.
Ça fait un peu scandale à l'époque.
Mais excuse-moi, ce type Roger Martin, il est historien de formation
Il n'est pas vraiment historien de formation, mais il est plutôt journalistique. Donc il fait des enquêtes là-dessus. Et c'est vrai que le mouvement d'extrême droite le passionne. Donc il a fait ce livre-là, il a fait un livre qui s'appelle America, qui a commencé une série en fait sur les mouvements Ku Klux Klan aux États-Unis. Il a fait un autre livre qui s'appelle Mamba sur Orange, sur la ville d'Orange, avec les mouvements qu'il y a eu à une époque, sur la municipalité, etc. Mm-hmm. Bon, c'est un auteur de polar aussi.
Je précise un truc, excuse-moi, c'est pas pour te couper, franchement, nos éditeurs n'aient pas de problème idéologique.
Oui.
On comprend bien que quand on dit qu'ils se spécialisent et ils s'intéressent à l'extrême droite, c'est pour la dénoncer, et pas pour en faire l'apologie.
C'est pas vraiment pour faire l'apologie du tout.
Voilà.
C'est plutôt vraiment qui a rompu
précision importante.
Quand même. Et donc, depuis, en 1996, il a créé une série qui s'appelle L'Agence du Dernier Recours. Il publiait donc au Point Seuil. Jusqu'à maintenant, il y a trois volumes. En fait, le personnage principal, c'est une femme qui s'appelle Elena Reynal, qui est une ancienne détenue qui a été condamnée pour un crime pendant 20 ans. Après, elle a été innocentée et graciée. Mais depuis, il y a une chose qu'elle ne supporte plus, c'est les injustices. Donc, elle a créé sa propre agence de détective. Et effectivement, l'enquête sur les histoires, tout le monde, la police a un peu laissé tomber ou que les dossiers sont mal passés. Et donc, le troisième volume de cette série, qui est paru au mois de septembre, il s'appelle donc Le Quai des Espoirs. et se passe en grande partie effectivement au Havre. Pourquoi ? Parce que le début du polar, en fait, c'est elle a son agence à Avignon. Il y a Romain qui vient la voir parce qu'il ne peut pas faire autrement. Et qui lui dit, mon frère est emprisonné pour un meurtre par les autorités françaises, mais il est immigré roumain, il vient d'arriver en France, en fait.
Sans papier.
Sans papier. Et donc, je voudrais bien savoir ce qui se passe et je voudrais vous enquêter là-dessus. Et donc, à ce moment-là, elle n'est pas forcément disponible et en voie pète, on peut le dire, quelque part. Et donc, lui, par contre, continue son enquête et arrive à réussir à remonter la filière des clandestins. Et par contre, elle apprend peu de temps après que, par les journaux, qu'il est mort. Et donc, à partir de là, elle ne va pas supporter ça et va remonter la filière, faire son enquête et remonter la filière, qui passera par Paris, par une église, et puis qui finira de toute façon en grande partie au Havre, parce que le nœud quand même du trafic se situe au Havre.
Donc, basé sur des réalités.
Voilà,
donc, ce qui est vraiment, en tant qu'avrais, on connaît
voilà,
pas.
Voilà, ce qui est intéressant dans le polar, c'est qu'effectivement, bon, c'est un polar qui est relativement simple au niveau de l'écriture, mais ce qui est intéressant, c'est que ça se passe au Havre, d'une part. Donc, on connaît à peu près tous les lieux, bon, que ce soit au niveau la Porte Océane, les quartiers de la Porte Océane. Il parle aussi bon, des quais, des gabions. Il va jusqu'à aller situer le lieu d'action avec gabions au niveau de l'Esclair.
Eh oui, c'est vrai que l'Esclair de la Seine est assez présent là-dedans.
Voilà, donc, et puis bon, il parle quand même bon, de ce qui peut se passer effectivement au niveau des ports. Encore les ports, Juliette, merci.
Et puis d'associations qui luttent contre ça.
Voilà, qui luttent contre ça.
Le trafic des sans-papiers.
Voilà, et puis bon, des mouvements d'extrême droite locaux qui peuvent intervenir aussi. Et puis bon, se situe aussi l'histoire, se situe aussi les mouvements de. Enfin, pas de services de sécurité, mais des boîtes de sécurité, etc. Bon, ce qui est intéressant pour nous, c'est effectivement sa législation sur le pouvoir, essentiellement. Et puis bon, en fait, l'histoire se lit très bien. Moi, ça m'a. En plus, il a écrit un poulpe. Roger Martin a écrit un poulpe. Et c'est vrai que le personnage principal, quelque part, en moins virulent, il fait penser un peu au poulpe. Hein. Parce qu'il est toujours un peu à chercher comme ça. Il est un peu en marge de la société. Et puis, il cherche vraiment la vérité, il fout un peu le caca, le nez ouais. dans le caca.
Oui, c'est vrai, ça fait penser au poulpe. Alors moi, peut-être parce que je suis une fille aussi, c'est vrai que je trouve sympa que ça soit
une femme. Tout simplement.
Pour une fois, ça soit le personnage principal, l'investigatrice de quelque chose. Oui, bon, je vois Arnaud à la technique, il me fait... C'est poli, bon, ouais. Enfin bon.
Il n'est pas féministe, Arnaud.
C'est
étonnant quand même.
On va le travailler au corps après les.
Je vais en parler à quelqu'un que tu connaîtras bien, on va voir ce que ça va donner. Voilà, mais en plus, c'est bon, c'est vrai qu'il y a quand même un travail quelque part de journaliste, parce que c'est vrai que c'est assez bien documenté sur les filières, bon, les immigrés clandestins, parce que bon, en fait, les immigrés clandestins du Pays de l'Est, visiblement, ils sont plutôt enclins à aller en Amérique du Nord et en Canada. Et en fait, Elena Arena remonte la filière. Et quasiment prête d'aller là-bas parce que tout se passe dans les containers. Il se passe dans les containers, en fait, visiblement.
Et oui, les amis, enfin, pour les Havrais qui nous écoutent, pour les autres sur Internet, parce que ça existe dans d'autres ports, mais on ne croit pas comme ça qu'il se passe autant de choses dans nos containers, sur nos quais, nos ports,
et
comme
oui.
ça.
Et oui, tout à fait. Et en fait, le début du livre se passe sur un trafic de containers, parce que, bon, une certaine personne qui fait partie d'une bande vole un container. Sur le port et doit le livrer dans un lieu perdu pour que les gens viennent ramasser la marchandise. Et dedans ce container, il y a des émigrés clandestins. Et comme ils sont témoins de la chose, donc la bande élimine ces émigrés. Ce qui est quand même assez.
Oui, c'est sordide
en fait. Bon, le bouquin tourne autour de ça aussi, des escroqueries par rapport aux émigrés, de ce qu'on peut faire, des filières, etc. Voilà, donc je vous recommande ce bouquin, parce que bon, c'est relativement simple au niveau de l'écriture, mais par contre, c'est très intéressant.
Merci Pascal, un bouquin voilà. qui n'est pas très cher en plus.
Bah non,
Autodition.seuil, oui, bah vas-y.
36 francs, 10 centimes.
Bah, faudrait-il s'en priver.
Il y a bien 10 centimes maintenant.
36 francs.
Ouais. 36 francs, 10 centimes.
Je ne sais pas combien ça fait en euros, mais j'espère que les auditeurs emboîteront mon pas. Moi qui ai suivi les conseils de Pascal, j'étais ravie de lire ce polar.
Voilà. On passe une bonne soirée.
Bah, oui, c'est super. Aussi, ouais. Alors, on va écouter Elliott Murphy, mais avant, alors, Je vais vous faire la liste de tout ce qu'on a oublié de dire dans l'émission. Je vous promets, on n'est pas parti, il y en a encore pour une heure. Alors, on a oublié quand même, alors s'il veut revenir au micro pour nous en toucher deux mots, ma foi, il est bien accueilli. On a oublié de citer la grande carrière de Paca l'Empereur Maya. Paca l'Empereur Maya qui, s'il veut bien,
il fait son
revenir
modeste,
un petit peu. Parce que après tout, il n'y a pas de raison. On vous l'a présenté comme ça, c'est le directeur du SEM, il sait nous parler d'expression musicale, de stage, de pédagogie, de relations avec les institutions, et là, là, tout est coincé. Mais c'est quand même un rocker. C'est un rocker, c'est un roller.
Sophie, il n'aime pas trop qu'on aime directeur.
Comment ?
Il n'aime pas trop qu'on dise directeur, apparemment.
Bah parce que c'est pas tout à fait vrai. Pardon. Moi, je suis responsable de la pédagogie, c'est-à-dire le contenu des stages qu'on propose, de ce qui se passe dans l'école et tout ça. Mais il y a une directrice du SEM qui s'appelle Sandrine, que vous avez entendue tout à l'heure.
Qui était là pas plus tard que, bah tiens, là.
D'ailleurs, elle est très proche de là.
On va pas dire qu'elle est au bar, mais...
Bon, en fait, moi, ce que je peux raconter, c'est que moi, quand je suis arrivé au SEM, il y a une petite dizaine d'années, j'ai essayé de me dire qu'est-ce que je peux faire pour que les jeunes mecs que j'ai en face de moi, comme élèves de guitare, en quoi je peux leur faire gagner du temps.
Oui, non, mais d'accord, mais non, mais non, mais d'accord, mais non, tu vas pas en faire la même, je suis désolée. Dis-nous tout de comment tu as arpenté les scènes françaises,
ah oui,
européennes,
ah oui.
Ta guitare à la main.
Bah moi, non, à 16 ans, c'est très simple, à 16 ans, j'ai vu plusieurs concerts, dont Eddie and the Trots, qu'on a écouté en début d'émission, en 1976 à la salle des fêtes de Graville.
Et non pas en 64 à Franklin.
Comme ça avait été dit avec eux. Les Ramones, Dr. Feelgood, etc., etc. Et c'est comme ça que j'ai chopé le virus. C'est, je jouais déjà un petit peu de guitare et tout. Et je me suis dit, bah voilà, ça m'intéresse. Et moi, je veux faire ça. Et je vais me démerder par tous les moyens possibles pour le faire. Donc, j'ai commencé à jouer avec des groupes, avec des musiciens, des Bad Brains, groupe à vrai.
Les Bad Brains.
Voilà,
mémorable.
Toute une époque, exactement. Et puis, un jour, il y a un mec qui s'appelait Eric Oulmar, qu'on a entendu tout à l'heure avec Flag, qui m'a dit, tiens, je suis en train de monter un groupe avec d'autres gars. Et tout ça, j'aimerais bien que tu sois guitariste et tout. Moi, j'étais plus jeune qu'eux, mais en même temps, j'avais toujours mon idée en tête. Donc, j'ai dit oui. Voilà. Je savais pas trop bien dans quoi je m'engageais. Enfin, à un certain niveau, je savais bien que j'allais jouer cette musique-là et que ça allait bien me péter la tête. Il y a tout le reste, je l'avais pas tellement bien imaginé, mais ça, je l'ai appris sur la route.
Parce qu'à l'époque, il y avait pas de stage de formation,
pas vraiment. C'est-à-dire qu'il y avait les disques que t'écoutais chez toi, et puis l'instrument que t'avais à côté,
et
le mode d'emploi, il y en avait pas. Donc le mode d'emploi, ça a été simple, ça a été un groupe avec lequel j'ai joué pendant 15 ans finalement. C'est-à-dire que le jour où j'ai dit oui dans la rue Coty à ce garçon-là,
je savais
pas que voilà, bah oui, on parle du Havre, situer un peu les choses, quoi. Que je me suis engagé pendant 15 ans avec un groupe
dont tu peux peut-être dire le nom,
qui s'appelait City Kids. Et finalement, j'ai découvert que ce que c'était de jouer devant un public, chose que j'avais très peu faite avant, que ça, c'était vachement spécial. Que moi, je suis toujours d'ailleurs quelqu'un de, je pense, a priori assez discret et tout ça, mais il faut être vachement extraverti pour jouer devant des gens, quoi. Et ça, c'est vraiment très spécial. Et finalement, on y prend goût au bout d'un moment. Parce que si on n'y prend pas goût, on arrête de le faire.
Oui, vaut mieux.
Voilà. C'est-à-dire qu'y prendre goût, c'est l'histoire de se foutre un petit peu à poil et de montrer un petit peu ce qu'on a dans les tripes et tout ça, quoi.
Hein, en non, je rigole, parce que est-ce que tu enlèves le haut ou le bas?
Bah là,
ce que disait Juliette tout à l'heure.
A priori, je sais pas par quoi on commence, peut-être le bas. Par quoi on enlève tout. On enlève
finalement,
tout
pareil, bah oui.
Parce que il faut que les gens qui sont en face de toi, ils aient une chance de comprendre ce que tu es venu leur raconter. Moi, c'est comme ça que j'ai très vite compris le truc, quoi. T'as pas beaucoup de temps, t'as une heure et un quart, une heure et demie, des fois un peu plus, des fois un peu moins, mais putain, faut aller vachement vite, quoi. C'est vachement rapide, une scène. Et ce que j'ai compris vachement vite fait, c'est que le temps de préparation que ça représente, il y a pas seulement les répètes, mais il y a tout un tas d'autres choses, ça veut dire qu'il faut voyager. C'est le voyage, la scène, c'est tout ça, ces machins-là. T'arrives dans une ville que tu connais pas, et puis t'en connais rien, et puis finalement tu restes pas longtemps, et le lendemain t'es reparti, puis tu vas ailleurs, et tout ça, quoi. Quand on dit, il y a une expression à la con qui dit les voyages forment la jeunesse. Quand c'est dit comme ça, c'est pas tellement satisfaisant. Mais quand tu voyages et que tu as quelque chose dans ton bagage à offrir aux gens, ça change tout. Ça change absolument tout. C'est-à-dire qu'à la fin de ton concert, tu as des gens qui viennent te voir en te disant que finalement, ils ont écouté ce que tu faisais le soir même au concert, qu'ils vont acheter ton disque parce qu'ils aiment bien et tout ça. Du coup, ça devient une espèce de responsabilité. C'est-à-dire que tu dis merde, je me déplace pour faire des trucs aux gens, mais les gens ils payent leur place, ils viennent pour passer une bonne soirée, donc c'est ça la responsabilité quoi. Donc tout ça forge un espèce de caractère. Et à mon avis, si t'as pas cette espèce de réflexe là rapidement, et ben t'arrêtes vachement vite parce que il faut que tu fasses autre chose quoi. Et moi je dirais que j'ai appris une partie de la vie. Devenir adulte, moi c'est à travers ça. Il y a plein de gens qui ont fait d'autres expériences, mais moi
sur la route.
Bah ouais, sur la route.
Avec
des copains, en jouant dans une forme de liberté complètement incroyable. La découverte de la liberté, c'est pas facile. C'est pas facile, faut pas se dire c'est un objectif super sympa, là-dedans je vais m'éclater. Non, c'est vachement difficile parce que t'es livré à toi-même. Et livré à toi-même, ça veut dire que les limites de la liberté, c'est les limites que ce sont tes propres limites.
Ouais, que tu vas trouver toi-même.
Et ça, il faut l'éprouver. Et l'éprouver, ça veut dire qu'il y a un tas de pièges là-dedans, que tu peux tomber dans un tas de conneries. La grosse tête, par exemple, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ton groupe a un tant soit peu de reconnaissance, ça, c'est un piège. Il y a un autre piège, c'est par exemple ce qu'on est en train de faire tout de suite.
Bah oui, la cabine.
Tu joues dans des bars, partout où tu es accueilli, on t'offre à boire. J'en connais plein et j'ai les noms, malheureusement, de mecs qui s'en sont pas remis. Il y a d'autres produits aussi, mais bon, je vais pas m'étendre là-dessus. Puis il y a aussi simplement l'histoire de se dire il faut.
Ah, une vie décalée quand même.
Comment ?
Une vie décalée.
Absolument décalée. Et quand tu as 20 piges, je suis arrivé, c'est juste ma petite parenthèse personnelle, je suis rentré dans CityKid, j'ai commencé à répéter avec CityKid le jour de mes 20 piges, le jour de mon anniversaire de mes 20 ans.
Ouais.
Donc c'est pour ça que je m'en rappelle quand même. Parce que j'étais avec des mecs qui avaient beaucoup plus d'expérience que moi. Et finalement, j'étais pas super à l'aise dans mes baskets quand même, quoi. Eux, ils avaient un espèce de rythme de travail, un répertoire, un machin, tout un...
Attends, parce que quand t'es arrivé dans les CityKids, ils jouaient depuis combien de temps?
Bah, ça faisait pas si longtemps, ça faisait 3 ans dans un groupe qui s'appelait Lipstick, mais mine de rien, 3 ans quand t'as 20 ans.
Ah oui, c'est pas rien.
C'est beaucoup.
Ouais, bien sûr. Voilà. Ouais.
3 ans qu'ils faisaient des scènes, que moi je les avais vus sur scène. Mmh. Moi j'avais fait 2-3 trucs, quoi. J'avais joué à la fête de mon lycée, j'avais joué je sais plus où, tu vois, mais bon. Hein. Ça rend humble.
Et puis c'est cette équipe, enfin, ça donnait l'idée à la fois musicale, mais aussi dans des textes et dans une attitude. Puis après, bon, moi, j'étais pas au Havre à l'époque, d'autres pourraient en parler mieux, mais d'un groupe qui est à la fois rebelle, mais qui disait des choses, qui disait peut-être plus de choses, voire même intello, qu'on disait. Est-ce que c'est vrai, ça?
Non, intello, non.
Ça s'appelle Jacques Chancel et la mort dans tout ça.
Bah ouais, mais non, en fait... C'est parce qu'il y avait un espèce de sérieux, c'est ce qui est incroyable d'ailleurs, de 4 personnalités complètement louvedingues et différentes, il y a eu un rendu de sérieux, parce qu'il y a eu un équilibre humain. Mm-hmm. De toute façon, à mon avis, la clé de la solution de n'importe quel groupe, elle est là. C'est-à-dire qu'avant même d'être musicien, on est simplement des êtres humains avec des idées sur les choses de la vie et la manière de qu'est-ce qu'on a envie de dire, qu'est-ce qu'on a envie de raconter. Et en fait, ce qui s'est avéré, mais dès le départ, dès les premiers répètes, moi, ce que j'ai vécu, c'est que, en dehors des répètes, en dehors des concerts, en dehors de tout ça, en dehors du groupe, la vie sociale de ces mecs-là, c'était un truc complètement allumé, quoi. Complètement allumé. On était vraiment des joyeux fêtards, des joyeux drilles, des mecs qui aimaient bien se fendre la gueule et tout ça. Mais le résultat, c'était un truc vachement sérieux. C'est-à-dire que on avait bien conscience, sans se le dire, qu'on avait quelque chose d'important à faire ensemble, de manière inavouée, une espèce de truc impalpable, non dit. On s'est jamais dit ensemble, on va être sérieux, puis on va faire ça. Puis non, ça s'est pas passé comme ça. Une espèce de côté de responsabilité, parce que on a bien compris que on arrivait bien à faire la musique ensemble, on s'entendait bien à ce point de vue-là, au niveau artistique. C'est-à-dire que on jouait du rock, mais la vision qu'on avait du rock et ce qu'on écoutait, c'était complémentaire, et voilà tout ça. Mais aussi de la manière dont on jouait, ça marchait bien. Donc chacun avait conscience qu'il ne fallait pas foirer l'histoire. Mmh. Et le côté sérieux qui nous a été soit reproché, soit adulé d'une certaine manière, bah, c'était la résultante de ça. C'est-à-dire que des mecs qui ont conscience qu'ils ont quelque chose à faire ensemble et que s'ils ne font pas les cons, ça peut être jouissif.
Bon, alors c'est tellement magnifique. Alors moi, je suis terrorisée. On me fait des milliards de signes techniques. Comment ça, il n'y a plus de plage pour enregistrer? Mais vous n'en avez pas des CD en rap? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On est barré pour raconter plein de trucs, puis on est loin d'avoir fini. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Trois minutes. Tu crois qu'en 3 minutes, on va terminer l'histoire des City Kids?
Non.
Shantyman mais... Club, le
non.
paquet avec les Backsliders?
Non, mais
je suis obligé de le re-inviter, ce garçon-là.
Ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, pourquoi je suis arrivé? Parce qu'en fait, mon activité à plein temps maintenant, c'est plus de tourner avec des groupes de rock'n'roll, c'est d'enseigner à des jeunes, de créer des stages, de réfléchir sur ce qui peut être intéressant de faire. Si j'avais pas fait 15 ans ou 18 ans, même, si je compte bien, de tourner et de jouer avec un tas de groupes, dont City Kids, mais aussi le Backsliders, Shantyman Club, et puis d'autres gens, je crois que ça serait impossible de... Je pourrais pas faire le boulot que je fais. Et en fait, au CEM, on essaye de prendre des gens qui ont eu cet itinéraire-là. Les meilleurs profs, c'est les gens qui ont fait le métier, comme on dit, sans prétention et en toute humilité. C'est-à-dire des gens qui ont été capables de comprendre les enjeux d'aller sur la route avec ses copains pour jouer la musique et la défendre devant des gens. Et malheureusement, il n'y a pas d'école pour ça. En tant qu'école, en toute honnêteté, je dirais que nous, au mieux, au maximum, on peut aider les gens à 50% de leur potentiel. Les autres 50% leur appartiennent totalement et la vie leur appartient. C'est-à-dire qu'une école, c'est pas là que les choses vont se passer. Nous, on peut faire gagner du temps, on peut donner quelques outils, mais au maximum, c'est 50%. Pour d'autres gens, c'est même moins que ça. Mais en tout cas, c'est ce petit pourcentage-là, on essaie de le défendre au mieux.
Et c'est vachement bien, comme disait OTH, le reste c'est l'école de la rue.
Voilà.
On a malheureusement pas le temps d'aller plus loin et ça c'est navrant. En tout cas, merci Pascal, bah, tu reviendras, voilà, tu seras notre prochain invité.
Je reviendrai parce que je disais à François tout à l'heure, il y a plein d'autres gens que j'aimerais bien amener dans cette émission pour qu'ils parlent leur truc. Puis j'ai les noms, mais on en reparlera bientôt.
D'accord, merci encore infiniment. S'il reste 3 secondes, on a oublié plein de trucs. Mais comme d'habitude, on vous rappelle d'acheter Le Monde Diplomatique, qui est quand même le meilleur mensuel qui puisse exister pour comprendre un peu le bordel qui se passe dans ce monde-là. D'acheter de temps en temps Charlie Hebdo, parce qu'il y a des réalités analytiques, mais il y a aussi de la rigolade. D'écouter Daniel Mermet, tous les soirs sur France Inter de 17h à 18h. Sandrine vient nous dire quelque chose. Viens Sandrine au micro.
Concert le 13 décembre pour les populations afghanes et les populations américaines qui sont victimes du terrorisme. Donc concert à la salle Franklin à 20h30. Tous les bénéfices iront aux ONG afghanes et un petit peu à New York. Voilà.
Avec différents groupes à vrai, dont les Red Lézards, les Super, dis-moi Pascal, la
Cécité,
Touquet Trio,
d'autres.
Et d'autres qui viendront certainement se greffer ce projet après.
Bon, les à vrai, allez voir ce concert. Cela dit, je me permets, vous me connaissez, vous connaissez l'émission. Je trouve un petit peu absurde de mélanger les victimes du World Trade Center et les autres, victimisation. On en reparlera dans une autre émission, mais enfin, allez quand même à ce concert, ça peut pas faire de mal.
Childhood living is easy to do. Everything that you wanted, I bought them for you. A graceless lady. Couldn't drag.
I know I dreamed you. Some kind of sin, some kind of lie. And now I got my freedom, but I don't have much time. And faith has been broken, and tears must be cried. Come on, but I still need some living. After we die, wild horses couldn't drag me away. We'll ride them someday. Everybody, wild horses couldn't drag me away. Wild horses. We'll ride them someday.
Thank you very much.